Alright, bon mercredi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Demain, c'est jeudi, c'est jour de paix.
On est mercredi, il dit demain, c'est jeudi, par exemple.
Exact! La semaine avance vite. C'est déjà la fin de semaine.
Hey, écoute, c'est-tu le fun d'être samedi?
On est-tu bien ici? Je parlais avec Tom Perrin tantôt. Tom Perrin, c'est notre ancien collègue qui parlait de F1, qui était à la... C'est qu'il faisait c'est comme travail à part nous parler, lui?
Programmation musicale.
Puis, il vient de la Martinique.
Oui.
Puis lui, son rêve, c'était de venir s'établir au Canada, plus principalement au Québec, à Québec, en raison de la température, puis de la sécurité, puis les belles filles.
Il a nommé ça. C'est pas son genre.
Non, je pense que c'est moi qui l'ai spécifié.
Ah, il me semblait aussi.
Et lui, il voulait pas le dire à la radio, on sait bien.
Ah oui, ça doit être ça. C'est un hypocrite.
Ouais, mais c'est rare qu'on entend... C'est peut-être parce que nous, on est ici, là. Mais c'est rare qu'on entend des gens comme Thomas qui arrivent et qui disent « Non, moi, je viens d'ailleurs, puis mon trip, mon rêve, c'est de venir m'établir au Canada, plus principalement au Québec. » C'est le fun d'entendre ça.
Oui. Oui. Je pense que t'allais dire. C'est rare qu'on entend pas quelqu'un d'ailleurs dire que les femmes sont belles au Québec. J'allais dire, c'est parce que tu l'as tout cru dans le bec, là. T'étais habitué avec... C'est ça.
Mais c'est vrai que les filles sont belles ici. On a cette chance-là.
Les hommes aussi.
J'ai été dans un certain quartier à Los Angeles où, effectivement, il y avait du beau monde. Moi, j'aime les mélanges, là. Tu sais, j'aime les mélanges, là. J'aime les toutes sortes de couleurs.
Ah, oui.
J'aime... mettons une femme noire, mais asiatique. Je trouve ça magnifique. Une brésilienne, mais avec un peu des nouettes dedans. Je trouve ça beau.
Moi, j'aime toutes les cultures, je pense.
toutes les
cultures. Juste difficile dans chacune des cultures.
Ouais. Le dernier, tu m'avais montré, qu'on va appeler Juan. Il était beaucoup trop jeune.
Je te montre jamais. Beaucoup trop.
C'était au gala de lutte.
Beaucoup trop jeune.
Il avait 22.
Non.
T'as 30 ans. T'es une vieille fille de 30.
Hey, tu me fais mal.
Ben non, mais je te dis.
Comment ça, tu commences le show en étant sadomaso, là? C'est quoi le rapport?
Il y avait quand même 22.
Peux-tu me laisser un petit peu d'espoir?
Puis tous les mots que tu... En fait, tu m'as pas dit de mots.
Premièrement, j'ai jamais dit ça. Non, arc! Voyons!
Là, j'ai dit, pauvre homme, c'est pas une pièce de viande.
Jamais j'ai fait ça.
C'est vraiment...
Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais dit... ma possession envers quelqu'un, j'ai pas fait j'ai jamais fait ça. Même plus en état, je ferais jamais
J'avais l'impression d'être avec un vieux mononcle. Tu m'as dit, lui, je ferais pas mal.
J'ai jamais... Hey, quel mensonge, là. Le pire, c'est qu'il y a du monde qui va hésiter, qui vont te croire, toi.
Ah, je te dis.
Je suis pas...
Pas facile.
Hey, toi, en plus, pour une fois, je te disais, ah, oh, tu sais,
cute. Ouais, t'as pas dit cute.
J'avais... voyons, gros bœuf.
Non, t'as dit, ça ferait. Ça ferait ce soir.
J'ai-tu dit ça de même?
Oui.
L'alcool
était pas cher, c'était 3$ du verre au gala de lutte. Là, fait que...
Franchement, honnêtement, j'ai pas dit ce soir, ça c'est sûr. Mais continue
des
tes niaiseries.
Vous transformez dans le temps où les bars fonctionnaient vraiment à planche. Là.
Uh-huh.
Il y avait des soirées où c'était 2$ le drink.
On le sait, puis les femmes dans le puis les hommes dans la clôture.
C'était 2$ le drink. Ou tu t'amenais une caisse de bière. Je pense que c'est... Aidez-moi. 418-971-1021, 418-971-1021. Je pense que c'était au Liquor Store. T'amenais ton six-pack de vide.
Les vieux m'ont déjà raconté ça, qui ont vécu ça.
Puis ils te donnaient six bières. Ça, c'était le début de ta soirée. Là.
Au cégep, nous, c'était quadruple ton cash. Fait que mettons, pour 20, t'imagines? T'avais 80$. Puis recul de quelques années, ça coûtait pas grand-chose à Chicoutimi, là.
Mais ils faisaient comment pour faire de l'argent avec ça?
Ben, il y avait plus de monde.
Oui, je comprends. Mais tu sais, tu donnes 20$, tu te ramasses avec 80$. Mais c'est beaucoup d'argent.
Tu sais, la caisse de 24 était quand même moins chère aussi à ce moment-là. Le fût devait pas être moins cher. En passant, tu te trompes de co-animatrice, certainement, parce que des gens disent que c'est Audrey qui avait dit envers les gars de la construction. Pas mon style.
Audrey a dit ça aussi envers les gars de la construction.
Aussi.
Ouais. C'est les bottes à cap qui faisaient la différence.
Hey, là, je suis tannée. Arrêtez. Quelqu'un qui dit Pascal, sois honnête. Marceau dit toujours la vérité. Ça, c'est un mensonge en soi.
Je dis toujours la vérité. Tu m'as jamais pogné à mentir ici.
Ben oui, voyons.
Non.
Sans que tu le saches en plus que je le savais que tu mentais.
Sans que je le sache?
Ah oui.
Non.
Yannick. Garde.
Des fois, je peux errer dans mes propos, mais mentir.
C'est erré. Je mens pas, j'erre. Comme la toune de Dumas.
Ouais.
Excuse-moi, j'ai erré.
Mais j'ai le droit d'en mettre un peu plus quand ça touche toi.
Ah ben,
c'est écrit
ça,
sur mon contrat.
Semble-t-il, sans mon consentement.
Gros show aujourd'hui. Denis Gravel s'en vient vers les entours de midi pour le Pit Stop. On a plein de choses à jaser. L'excellente chroniqueuse du soleil, Valérie Godreau, qui va être là pour nous parler d'actualité municipale, entre autres le ping-pong gênant entre Guilbeault, Jean-Yves Duclos, le fédéral versus le provincial et la ville de Québec. Les voyages de Bruno Marchand, on va parler de ça aussi. Puis mon chum Louis Gauthier s'amène dans les studios vers les entours de midi 50 là, pour parler d'actualité internationale. Puis au travers de ça, ben, il y aura d'excellents blocs nouvelles de Pascal de 43 secondes et on fera peut-être un peu de sport.
Moi, j'ai été engagée pour dire le contraire de toi.
Oui.
De ne pas le laisser faire.
Tu le fais bien.
Oui, 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 j'ai une prime.
Défaite de 4-1.
Là-dessus.
Défaite de 4-1 du Canadien face aux Jets de Winnipeg. Quand même la troisième défaite de suite là, du Canadien de Montréal. Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Rien à faire.
Jurage a été le seul marqueur du Canadien. Caden Goulet qui a quitté le match blessé. Je ne sais pas si vous avez vu le visage de Martin Saint-Louis là, quand vous écoutiez le match, mais quand Saint-Louis a appris la blessure de Caden Goulet, si on lit la blessure de Caden Goulet dans le visage de Martin Saint-Louis, d'après moi, on ne devrait pas le revoir pour les prochains jours, les prochaines semaines, mais attendons voir. Donc,
qu'est-ce
retour
passé
en action dès demain pour le tricolore face au Wild du Minnesota. Au Centre Bell, donc ça va être demain soir, jeudi. C'est blessé un genou, mais c'est déjà un gars qui a des problématiques avec ses genoux. Tu sais, 23 ans, tu as des problématiques avec tes genoux.
Ben... soit t'as été bad-locké ou soit que t'as fait ton gars jeune, que toi, t'es pas encore sorti de ça, là, cette sphère-là, mais genre, j'ai mal.
C'est pas grave. Continue.
Ça, là, ouais. Ça a des impacts dans
la vie. Comme les commotions cérébrales aussi qui peuvent t'impacter. Les gars veulent pas mettre fin à leur carrière à 22, 23, 24 ans. C'est tout à fait normal. Hier, j'ai pogné une histoire sur Internet que j'ai trouvée franchement intéressante. Là, est-ce que je vais me rappeler de tous les noms? Je suis pas sûr, mais je pense que c'est M. Padgett. Qui s'était cogné la tête. Donc, il a fait une grosse commotion cérébrale. Le gars n'avait jamais vraiment étudié en art. Il n'avait jamais été excellent en mathématiques. Puis tout d'un coup, c'est comme l'histoire de la fameuse pomme là, qui tombe sur la tête de quelqu'un qui disait des choses intelligentes par la suite. Là.
Ouais.
Tout d'un coup, il s'est vu avoir la vie autrement. C'est devenu un célèbre mathématicien. C'est devenu un artiste incroyable. Tape Padgett.
Genre P-A-G-E-T.
Padgett. Mathématicien. Le gars doit avoir 61 ans. Le gars est devenu un génie après avoir subi une commotion.
Jason Padgett?
Jason Padgett. Puis il est devenu
Jason
un génie.
D. Padgett?
Oui. Après avoir fait une commotion cérébrale. Puis il y en a à peu près 7-8 dans le monde qui sont considérés comme des génies, qui ont eu ce fameux coup à la tête-là, qui a déplacé quelque chose. Puis ça a fait en sorte que les gars, du jour au lendemain, leur vie a complètement changé.
Ah, mais c'est d'une tristesse.
Ben, en fait, moi, ça me donnait espoir. Je me fesse ça à la tête depuis hier.
Pour mais... faire le contre!
Le gars est devenu super brillant.
Ouais.
Il réussit à dessiner des dessins mathématiques que seul un ordinateur est capable
après
de faire.
Après le coup?
Après le coup. Regarde Jason Padgett.
Mais je l'ai, là, devant
draw.
Moi. Là. Mais j'ai vu, là, il y a son hexagone. Là.
Exact. C'est le seul qui est capable de faire ça au monde, sinon c'est des ordinateurs.
Ça a-tu été prouvé que vraiment, là, il y a quelque chose dans son cerveau qui a bougé puis que ça a raccordé un genre de snap?
Ça l'a augmenté son QI. Puis, tu sais, la plupart d'entre nous, on mange un coup sur la tête. Si on en mange trop, on va devenir légumes.
Ouais.
Ben lui, il a mangé un coup sur la tête à la bonne place. Il y a des fonctions qui se sont... il y a des trucs qui se sont générés.
Snap qui se sont connectés.
Oui, puis ça l'a augmenté son quotient intellectuel, ce qui fait aujourd'hui qu'il est reconnu comme étant un génie mathématicien.
Je pense que c'est sain, OK? Je pense que c'est sain, mais j'en dirais que j'ai des questionnements.
Vas-y.
Je suis pas prête... Non, mais je suis pas prête à juste ramasser cette information-là puis l'avaler.
Padgett, P-A-D-G-E-T-T.
Oui, je l'ai devant moi, là. Genre, le premier homme à avoir un brain injury puis qui turn into a math savant, je comprends. Mais y a-t-il quelqu'un qui l'a prouvé, ça? J'ai de la misère à juste manger cette information-là.
Puis
ouais.
Lui, la façon dont c'est arrivé, de ce que je comprends, c'est qu'il était dans un bar de karaoké. Puis il s'est fait fesser dans le derrière de la tête.
Ben voyons.
Puis là, ben, tu comprends...
Chantais-tu direct la pointe ou...
Il y a eu une commotion. Puis après ça, ben, on s'est rendu compte qu'il avait développé des habiletés qu'il n'avait pas avant. Puis dans le reportage que j'ai vu, il y a des gens, Pascal, qui ont eu à peu près le même coup, là, je ne sais pas c'est où la place exacte, qui ont commencé à être habiles pour apprendre des langues. Fait qu'ils étaient capables, en quelques minutes, pendant plusieurs jours, mettons 3-4 jours, en quelques minutes, de se pratiquer sur une langue, mettons l'italien. Je sais que ce ne serait pas ton genre, mais en 3 jours, ils sont capables d'apprendre l'italien puis d'avoir une conversation normale. Suite à ce coup-là...
Mais Kama Pasquale,
ouais.
Veux-tu me frapper plus fort jusqu'à ce que je puisse y retourner en étant parfaitement bonne en italien?
Elle me l'a demandé.
Il
y a quelqu'un qui dit « j'ai besoin d'aide pour des coups
». Espèce de personne vulgaire.
Non, mais c'est fou pareil.
Je m'excuse, mais je suis pas sûre de croire. Faut que je voie ton documentaire, faut que je voie s'il y a des scientifiques, va falloir que je prenne une heure. Tu viens d'amputer 2 heures de ma journée, Yannick, parce que tantôt, je vais être pogné là-dedans.
Mais retenez ça, là, il est reconnu comme étant ayant le syndrome du savant. C'est devenu un artiste par la suite. Jason Paget. Puis tapez vidéo, vous allez tomber sur son histoire, c'est juste incroyable.
Syndrome du « il sort colon irritable », semble-t-il. Il y en a beaucoup qui sont impactés. Bon, il se fesse la tête. Enfin, je vais avoir quelqu'un avec qui co-animer comme du monde.
Ben oui.
Peux-tu continuer?
Tu vas pouvoir enfin comprendre.
Enfin, je vais pouvoir avoir des discussions intelligentes ici.
Exact. Hey, en attendant, Denis, y a-tu des grosses nouvelles aujourd'hui dans l'actualité?
Mais c'est sûr que là, on parle de la Banque du Canada. On a diminué le taux directeur de 25 points de base. On est rendu à 3 %. C'est un peu ce que Pat Raymond disait précisément hier. C'était sa prétention de croire. Bon, si vous avez un prêt hypothécaire à taux variable, tu vas voir un paiement quotidien d'intérêt qui va diminuer dès demain. Donc, les taux de prêt personnel puis les lignes de crédit aussi devraient reculer de 25 points de base. Ce qui est une bonne nouvelle. Je peux pas croire que quelqu'un est contre la vertu. La seule chose, c'est que ça sera pas un impact que vous allez considérer qui va vous permettre d'aller dans le sud, là, dans un mois quand c'était pas possible, mettons. Financement du tramway de Québec, on soupçonne Mme Guilbeault de vouloir se présenter pour les conservateurs de Pierre Poilievre.
Tiens, ça ressort!
Ça serait quand même une grosse affaire dans l'actualité. Là, on changerait de cap d'analyse et d'opinion. Les solidaires, c'est Québec solidaire qui soupçonne que Mme Geneviève Guilbeault est très active pour assurer le financement fédéral du tramway en raison de ses aspirations à se présenter sous la bannière conservatrice de Pierre Poilievre.
La rumeur qui est sortie là, de ça quelques mois, on en avait parlé, puis d'ailleurs, ça s'était rendu à l'Assemblée nationale où là, elle avait dit non, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'elle dise?
Mais la rumeur qu'on a entendue tant au niveau des gens du fédéral à Québec qu'à Ottawa, c'est qu'elle aurait approché l'équipe de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre aurait eu vent de ça et sa candidature aurait été rejetée en moins de 30 secondes.
Non. Lui, il n'a pas fait...
Il a juste rejeté sa candidature en moins de 30 secondes. Je sais qui conseille Pierre Poilievre à Québec. Là. C'est assez de savoir qui conseille Pierre Poilievre. Donc, ça a été rejeté en 30 secondes. Puis, des gens qui ont eu vent de ça à l'Assemblée nationale qui lui ont dit « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous joindriez aux conservateurs? » Puis, elle a dit « Non, c'est pas vrai. C'est une rumeur. J'ai pas le temps. J'ai des enfants. »
Même si
ça avait été
lu, oui, là, que Pierre Poilievre, il aurait dit « intéressant. » Elle n'aurait pas dit ça en ce moment, Yannick. Là. Impossible qu'elle dise ses intentions réelles.
Bien, c'est parce qu'elle regarde les sondages, puis dans son comté, s'il y avait des élections demain matin, elle serait pas élue.
Elle serait pas là.
Fait qu'elle, tu comprends qu'elle regarde ce qui se passe au fédéral, puis il y aurait des possibilités, effectivement, pour elle au fédéral. T'sais. Bien que je ne m'entende pas avec elle au niveau politique, c'est une excellente communicatrice, c'est une femme extrêmement brillante.
Il faut qu'elle soit élue. Fait que là, moi, je me demande si elle n'est pas élue à la base, OK? Puis que, mettons, tu considères que la CAQ est plus de gauche. Admettons que tu considères que la CAQ est plus de gauche qu'un parti comme celui de Pierre Poilievre. Là. Est-ce que les gens de droite l'apprécient?
Elle pourrait dire qu'elle a toujours été à droite, sauf qu'avec la coalition Avenir Québec, elle était membre d'une coalition. Donc, il y avait des gens de centre droit, de centre gauche.
De tous les partis. Sauf que est-ce que les gens de la droite, disons, politique actuelle, voteraient pour elle? Tu sais, pour avoir ces aspirations-là, il faut quand même que tu crois à tes chances d'être élu. Là. Est-ce que les gens de la droite politique, quelles que soient les extrêmes... aller ailleurs, ça vous tente, là. Mais est-ce que vous voteriez pour une Geneviève Guilbeault au fédéral?
Moi, non, personnellement.
Bien, c'est ce que moi, je pense. Fait que, là, pour Pierre Poilievre, peut-être que c'était ça aussi. Hey, on va pas quand même prendre la chance de mettre en candidature une femme qui ne sera peut-être pas élue sous notre bannière parce qu'elle n'a pas été appréciée nécessairement autant de la gauche ou de la droite dans les derniers mandats. Ça a été plus difficile pour Geneviève Guilbeault, là.
Sauf que c'est une femme qui s'exprime super bien. Elle a une notoriété à la grandeur du Québec.
Assurément.
C'est une femme brillante. Elle vise les plus hauts sommets. Elle veut la job de François Legault. Mais si elle n'est pas élue aux prochaines élections, ça va être extrêmement difficile pour elle de l'avoir. Fait que l'opportunité qu'elle voit, c'est probablement d'aller au fédéral. Mais ça, écoute, le 25 septembre, voici ce qu'elle disait.
J'ai jamais rencontré Pierre Poilievre de ma vie, et non seulement je l'ai jamais rencontré, j'ai même jamais été dans la même pièce que lui, ni même dans le même événement que lui. Ça aurait pu arriver, une chambre de commerce, à un dîner. Jamais je n'ai croisé Pierre Poilievre.
Voilà, donc ça, c'est vrai. Elle n'a jamais croisé Pierre Poilievre nulle part. Elle n'a jamais été dans la même pièce que lui.
Là,
par contre, elle aurait fait elle aurait tenté d'avoir des discussions avec lui dans le but de se joindre aux conservateurs. Elle avait dit à ce moment-là, non, je ne l'ai jamais rencontré. Attends un peu. Est-ce qu'un jour, vous penseriez vous joindre aux conservateurs fédéraux? C'est une autre question, ça. Elle ne se l'est pas fait poser, malheureusement.
Je ne sais pas à quel point, moi, faire du temps là-dessus, je trouve ça d'intérêt dans le sens où j'aime ça qu'on le pointe. Là, dans l'actualité, si Québec solidaire est certain ou avance une rumeur qui, pour eux, est concrète, on peut en discuter, on peut faire cette analyse-là, mais... Ça donne quoi? Du vide, là? Très honnêtement, je me demande...
Pour les gens de Québec, on gagne rien, là.
Ah, c'est ça, là. Même au fédéral, est-ce qu'elle serait élue? Je suis pas convaincue, mais ça donnerait ben du jeu politique intéressant pour la suite des choses. On s'en va en élection dans tous les paliers, officiellement, là. On n'aura jamais été autant bombardé par la politique. Ça aura été, en fait, juste un moment, là, en ce moment, là, où on doit se préparer à la suite parce que vous allez avoir un pouvoir. Au municipal, au fédéral, au provincial, vous allez avoir un pouvoir prédominant sur la suite des choses si vous n'êtes pas satisfait en politique, là. Là, Denis, il serait là, je le dirais, là, de la même manière. Pas aller voter? Non, Denis, on va voter. Vous avez un pouvoir en ce moment qui est important, qui est démocratique. Faites-le. Puis votre jeu politique en tant que citoyen, citoyenne actuellement, va se refléter sur tous les paliers. J'ai rarement... Moi, de ma vie, j'ai jamais vu ce contexte-là. J'ai 30 ans, on va le répéter, vieille croûte, gna gna gna, trop jeune pour toi, parfait. Je n'ai jamais vu un contexte politique comme celui qu'on a, dans lequel on est en ce moment. Là. Parce que ton choix municipal, ton choix provincial, ton choix fédéral va être interrelié selon toutes tes positions politiques.
L'avenir nous le dira, cher ami. 11h50, on continue.
Oui, la guerre des stupéfiants, 6 arrestations, opération majeure à Québec et Rivière-du-Loup. 6, c'est ce qu'on avait il y a quelques heures. On est rendu à 8 en passant. Individus liés au groupe organisé, criminalisé et aussi partout dans la province, que ce soit ici ou ailleurs. Ça a été une grosse opération d'envergure. Ça a été mené dans le cadre de la guerre des stupéfiants et il y a eu des perquisitions aussi, donc pas juste des arrestations, en simultané. Ça veut dire que 1-2-1-2, maintenant, tout le monde agit en même temps. Peu importe on est où dans la province, des armes à feu, des armes longues, des stupéfiants, bien sûr, en quantité qui ont été saisis. Et il y aura assurément des petits passages au palais de justice dans tout ça pour plusieurs candidats, disons-le de même. 6 hommes qui ont finalement été arrêtés pour trafic d'armes à feu et de stupéfiants, ça c'est quand même les accusations qu'on a déjà connues dans les articles. D'après les sources du Journal de Québec, là, ils sont tous liés de près ou de loin aux gangs Blood Family Mafia qui luttent avec les Hells Angels pour le contrôle des stupéfiants dans la province. Fait qu'on parle pas de d'autres petits regroupements. On parle de celui-là majoritairement. Qu'est-ce qui va arriver avec le Colisée de Québec? On dirait que c'est une vieille nouvelle, le jour de la marmotte, mais là, la Ville a commandé une étude sur la faisabilité de conserver la structure originale. Si vous ne saignez pas du nez actuellement avec cette nouvelle-là, je me demande, vous étiez où dans les dernières années? Ouais.
Posons-nous des questions. T'sais. Qu'est-ce qui fait en sorte que les projets n'avancent pas à Québec? C'est assez particulier.
C'est vrai la vie de célibataire de Maxime années. Larouche.
Oui, exact. 11h52, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Denis Gravel s'en vient pour le pit stop dans les prochaines secondes. On va parler, entre autres, de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. C'est survenu le 29 janvier 2017. Vous étiez où, vous autres? Comment vous l'avez appris? Comment vous avez suivi ça?
Québec, sur le chemin Sainte-Foy.
On vous parle souvent d'équipe Laberge, on vous parle souvent de Simon. Pourquoi? Parce que son équipe fait jaser. Simon fait jaser, et ça depuis des années. Puis le secret derrière leur succès, c'est des professionnels passionnés, des spécialistes de l'immobilier. Encore presque 500 maisons vendues en 2024. Avec l'équipe de Simon Laberge, ça se vend rapidement et ça se vend très, très bien. On est les numéro un au palmarès via Capital et on a bien l'intention d'y rester. Donc, en raison de la forte demande de nos clients d'Équipe La Berge, on recherche des terrains, on recherche des immeubles à logement, on recherche des condos, des maisons. Vous avez quelque chose à vendre? Bon, on est là pour vous autres. Puis encore la semaine dernière, on a été régulièrement en surenchère avec nos clients parce qu'on a un énorme réseau. Et qui dit surenchère quand on vend notre maison, fait en sorte qu'il nous en reste pas mal plus qu'on pensait dans nos poches suite à la vente. On vous rappelle que le prix médian de l'unifamilial est toujours en forte progression. Aujourd'hui, votre maison vaut plus que vous le croyez. C'est toujours le temps de profiter de la montée des prix. Pour vendre votre maison, c'est simonlaberge.com.
La première fin de semaine du Village Nordique en administration, finance, technologie de l'information, ressources humaines et plus encore. Faites évoluer votre organisation avec nos services en entreprise. Visitez progresseez.ca.
Peut-être que vous voulez changer de job, moi je pense, parce que je travaille avec Denis Gravel puis Yannick Marceau. Tranquillement, pas vite, on pourrait faire partie de la même équipe. Honnêtement, j'y penserais d'aller chez Hébergement Rive-Nord. C'est une entreprise qui est composée de 6 ressources intermédiaires. Excusez-moi. Qui héberge des résidents qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça a été fondé en 2015. Puis l'équipe est continuellement à la recherche d'innovation. Donc, on a toujours envie de se dépasser. On veut de la qualité. On veut du bien-être autant pour les bénéficiaires que les gens qui travaillent avec nous. C'est une équipe qui est passionnée, qui est dynamique. On veut toujours aller au-delà de nos compétences en tant qu'éducateur spécialisé, en tant qu'intervenant en délinquance et travailleurs sociaux. Tout le monde veille au bien-être quotidien de tout le monde. C'est d'intervenir auprès d'une clientèle qui présente des déficiences intellectuelles, un trouble du spectre de l'autisme, avec une formation ou pas. Je vous dis ça parce qu'il y a certainement un poste pour vous. Si jamais vous dites « je ne suis pas qualifiée », il y a des formations qui sont fournies par l'employeur. L'horaire est flexible, le salaire est compétitif, c'est à partir de $22.75 de l'heure. Si tu as le bien-être des autres à cœur, va donc jeter un petit coup d'œil au carrière.fm, hébergementrivenord.com.
La météo présente.
Midi, 2 minutes. Denis Gravel est en place. Tout sourire. Pascal est là, est encore un peu traumatisé, mais tout va bien aller.
C'est l'histoire de ma vie.
Les choses ont tellement changé. On se rappelait comment on était cabotin dans le temps. Ce qu'on écoutait, on allait au cinéma pour voir les Jackass.
Incroyable.
On écoutait Howard Stern aux États-Unis qui réalisait des performances qu'aujourd'hui, il se ferait canceller.
Écoute, j'ai visionné hier soir, c'est disponible sur Prime depuis quelques jours, le documentaire sur Tom Green. Est-ce que vous vous souvenez de Tom Green? Oui. Celui qui buvait à même la vache, là.
Lui, il a été le conjoint de Drew Barrymore.
Oui, il a été marié pas longtemps avec Drew Barrymore.
Est-ce qu'elle allait bien?
Au sommet de sa gloire. Tom Green qui faisait une émission de TV sur les télévisions publiques à Ottawa. Et il a été repêché par MTV. Puis Tom Green, c'est le premier qui a fait du Jackass. Il a fait du Jackass avant Jackass. Tom Green a fait de la TV, Internet et du podcast à une époque où ça n'existait pas. Ça a été un visionnaire.
Mais étais-tu vulgaire? Étais-tu déplacé ou il était juste téméraire?
Il était très graphique. Très, très, très graphique. Il allait dans la rue confronter les gens, puis ainsi de suite. Il aimait les trucs dégueulasses, là. Mais c'était une époque, puis... Tu sais, je regardais le documentaire hier, puis je me souvenais plus beaucoup de Tom Green. Puis en m'en souvenant, je me suis dit, je peux plus critiquer mes gars qui écoutent des tweets sur YouTube parce qu'on a écouté pire qu'eux autres.
Ouais. Ça t'inquiète pas de voir où qui t'es devenu?
Non, mais ce qui me fascine là-dedans, c'est comment une nouvelle génération s'affirme. Tu sais, on parle beaucoup des woke là, depuis une couple d'années.
Oui.
Puis notre génération, à nous autres, ça a été beaucoup par la violence et l'agressivité qu'on s'est manifesté. Tu penses à Woodstock 99, tu penses à la musique du temps, tu sais, Break Stuff, Limp Bizkit, la hang de Korn. T'avais South Park qui défonçait les barrières à une époque où écouter les Simpsons, c'était considéré comme edgy.
Mais c'était une partie de votre personnalité parce que, je veux dire, il y avait aussi beaucoup de bon monde.
On faisait tirer des implants mammaires en
Ah, ça, sérieux.
Ça, c'était le bon temps.
Le bon temps, c'était le temps. Hein? Je vais m'empêcher de le qualifier, mais mettons que cette époque-là, c'était à grandeur de la planète. Il se faisait beaucoup de choses qu'on regarde aujourd'hui puis qu'on se dit, tabouère, on n'avait pas d'allure.
Faut pas avoir les yeux de 2025. Parce que,
tu peux pas.
T'sais, quand tu regardes ça, ce qui se passait dans les années 2000 ou dans les années 80 ou 90, je parlais avec un grand de la radio de l'époque il y a de ça quelques semaines, puis il me racontait des histoires qu'il avait faites des années 70-80. Ça avait comme pas de bon sens ce qu'il avait fait. Puis aujourd'hui, ça serait totalement inacceptable. Mais là, on était là. On essayait, je pense, de repousser constamment les limites. Il essayait de se faire remarquer.
C'est toujours l'idée de dire le monde que vous nous proposez, nous autres, on n'en veut pas. Puis les woke, c'est un peu ça aussi, là, de dire vos cadres à vous autres. Nous autres, ils nous conviennent pas. Puis c'est pas fait de la même façon, c'est pas fait avec les mêmes valeurs puis les mêmes objectifs. Mais il y a une période de vie, probablement entre 16 et 25 ans, où tout ce que tu as le goût de faire, c'est brasser de la marde pour shaker un peu le cadre établi autour de toi.
Dire aux gens que tu existes, j'imagine.
Exact, exact. Mais j'écrirais un livre là-dessus où j'irais assister à un cours universitaire là-dessus, parce que je trouve ça fascinant. Puis on a beaucoup de bons documentaires là, qui nous replongent dans ces époques-là. Moi, ça m'a replongé dans des souvenirs que ça faisait longtemps que j'avais pas visité dans ma tête.
Ouais, moi, j'avais retombé sur les premiers Jackass. Puis ça me fait encore rire.
C'est incroyable.
Dernier Jackass que j'avais vu, je pense que c'était au cinéma, c'était... deux nains qui étaient assis au bord, puis c'était un gars et une fille, puis ils semblaient se croiser, puis à un moment donné, le vrai chum de la fille, qui est naine aussi, puis lui, c'est un nain, il vient voir les deux autres nains pour dire « Hey, qu'est-ce que tu fais avec ma blonde? » La chicane pogne, puis là, tout d'un coup, la police naine arrive dans le bord.
De tous ceux qui sont impliqués, c'est des nains.
Mais ça me fait beaucoup rire, parce qu'ils ont tous voulu le faire, puis je trouve que c'est testé sur les humains.
Les ambulanciers, ils arrivent, c'est des nains avec la civière. Puis là, t'as les grandes personnes qui sont autour, puis ils disent, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste des nains partout.
La réaction est le fun à constater.
Mais je montre ça à mes gars. Si je montre ça à mes gars aujourd'hui, puis je ris, ils vont dire, papa, tu ris des nains?
Ouais. Mais c'est pas ça.
Non! On rit de la situation, puis dans le temps, c'était drôle. Il y avait le fameux lancer du nain aussi.
Oui, ça existait, ça, à Québec.
La fameuse patate dans le cul.
Aussi, oui. Aussi.
Ben, lance-patate dans le cul.
C'est là où, quand ça vient, mettons, discriminer...
On avait du fun, Pascal.
...par la superficialité, c'est là où moi... Non, mais t'as le droit. T'as le droit encore de trouver ça drôle. Mettons, moi, le contexte avec le théâtre puis avec tous les nains impliqués puis qui débarquent, je trouve ça hilarant. Ils ont voulu le faire. Mais la patate dans le puis le lancer du nain, je pense qu'ils ont voulu le faire pour l'argent derrière de ça, puis c'est comme un peu c'est de la discrimination.
En 25 ans, on est passé de lancer des nains dans un bar à pas prendre de nains pour des rôles de nains à la télévision pour pas stéréotyper des nains.
C'est un peu problématique.
On vit un moment plate.
On est passé d'un extrême à l'autre, j'en conviens.
Puis tu sais, c'est la même chose, mettons, on revient ici en radio, en studio. Très honnêtement, si j'avais pas le droit de parler de politique en studio, puis que je serais juste là pour les jokes de sexe à Yannick, et etc., puis qu'en plus, il fermerait mon micro quand je dis quelque chose qui n'est pas en accord avec lui, et je pousse encore plus loin. Si j'étais juste une yes woman, comme ça a déjà été demandé à tellement de femmes pas si loin d'ici et pas si il n'y a pas si longtemps.
Non, pas besoin de reculer de 50 ans.
On s'entend-tu? Puis même personnellement, je ferais pas ça.
Ça, c'est une façon détournée de te dire qu'elle est avec toi pour le meilleur et pour le pire.
Non,
c'est très, très beau.
S'il te plaît.
C'est un beau compliment qu'elle vient de te faire.
S'il te plaît.
Ce matin, j'ai vécu un moment exceptionnel.
Il était là, Denis!
J'avais Thomas Perrin.
Oui!
Qui est un gars qui essaie d'immigrer ici. C'est notre ami français, le spécialiste de la F1 que vous avez entendu sur les zones de boulevard.
Un passionné, un Moses de bon bonhomme.
Les exemples que je viens de donner, il va le faire, OK? Écoutez bien.
J'essaie de trouver une solution pour qu'il puisse rester en sol québécois. Puis là, ben, j'essaie de trouver quelqu'un avec qui il peut se marier.
Un époux ou une épouse.
Fait que, tu sais, on commence par la cause désespéré. Je m'en vais voir Max Larouche. Puis je dis, tu peux-tu te marier avec Thomas Perrin? Faudrait qu'il reste ici.
C'est un très bon chum à Thomas.
Max n'a pas dit non.
Ouais.
Fait que là, j'ai dit, tu pourrais même te marier avec Pascal. Puis là, Tom a dit non.
Ouf, non.
Il a dit non, jamais. Il dit, je suis pas aussi désespéré que ça.
Il a fait wesh.
Mais moi, je la connais, cette technique-là. Là. Je la connais, là. C'est repousser pour attirer. Là.
Ah, tu penses c'est ça? Ah. Depuis ce temps-là, tu penses à lui? Ça a marché?
Non, malheureusement. Malheureusement.
Moi, je ris encore de ces jokes-là. Puis je comprends les gens qui regardent ça avec leurs yeux là, en 2025 et disent hey, dans ce temps-là, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'était l'époque.
On a réécouté
on était fous puis on aimait ça.
On a réécouté les Jackass récemment en rafale. Puis je peux pas te dire que j'ai pas ri.
L'as-tu fait avec tes gars?
Non, avec ma blonde. Mais tu sais, on a ri tout le long. Puis c'est devenu un rire coupable.
Mais sur quelle scène, mettons? Parce que les détestables, sans faire du jackass, sont capables aussi de se manger. Mais
les détestables se brochaient pas les testicules ensemble.
Ah, mais ça, là, c'est un rire coupable. C'est stupide, mais ça fait pas de mal à personne à part au gars broché qui a choisi d'être broché.
C'est-tu l'autre avec son skate qui se pitche dans des... voyons, des trucs, les arbres du désert, là?
Des cactus.
Oui. Il est avec son skate, puis il se pêche des cactus.
Ils ont tout fait ça.
Mais ça vous faisait pas mal. Moi, je suis pas capable d'engager ça, parce que j'ai mal.
Et le gars pèse 400 livres. Tout le temps, il se relève de là.
Ils ont fait plein d'affaires dégueulasses, mais moi, l'affaire qui m'a écœuré le plus, puis ça fait plusieurs fois que je regarde le film original, puis cette scène-là, je suis pas capable de regarder, c'est quand il se coupe avec du papier.
Oui.
Ouais. Paper cuts.
Hey, j'aime. Je sais. Vous riez. Ça vous fait pas mal. Il y a tellement deux humains.
L'idée, c'est de s'installer, mettons, une feuille entre deux orteils, puis là, swish! Moi, ça, je suis pas capable.
Ça n'avait pas de bon sens.
Les broches des testicules, je peux regarder, mais les coupures de papier entre les doigts et entre les orteils, là, c'était too much.
Moi, le rire par le mal, je le catch pas.
Le gars de Jackass, quand il est venu à Québec, Steve-O. Il est passé par le Dagobert puis il s'est broché les chenolles.
C'était plein. C'était sold out. Tout le monde n'a pas pu rentrer au DAG ce soir-là.
C'est un type d'humour qui me fascine.
Les gens sont allés là pour voir un gars se brocher la poche.
Ouais. En live.
Une vasectomie live et artisanale.
Ah, moi, je file pas, juste si tu me le dises.
Tout était parfait. Hey, pour bien faire, il faudrait que je fasse une pause, mais j'ai pas de pause. Fait qu'on va jaser un peu de ce qui nous touche. Puis peut-être se rappeler aussi qu'à pareille date, en 2017, est survenue une histoire épouvantable qui, dans 100 ans, on va encore se souvenir de ça, j'imagine, le fameux massacre à la mosquée d'Alexandre Bissonnette.
Une des pires tueries de l'histoire du Canada.
T'étais où, toi, quand tu l'as appris?
J'étais chez nous, niaiseux de même. Je restais à Beauport à l'époque, puis je me souviens à quel point il y a eu de la fausse information qui a circulé rapidement.
Il y avait trois tireurs au début.
Ouais. Alors que tu regardes ça rétroactivement, puis j'ai beaucoup lu là-dessus ce matin, parce que je me posais des questions, ou encore aujourd'hui, on n'a pas nécessairement les réponses. Mais tu sais, dans l'ordre chronologique des choses, le tireur s'est rendu au policier pas très longtemps après les gestes.
Il était sur Dufresne Montmorency.
Oui, mais pendant une longue période, et il y a des gens qui disent encore aujourd'hui que c'est le cas, il y avait plus qu'un tireur, il y avait des conspirationnistes avant la pandémie, on vous le rappelle. Donc évidemment, c'est des choses qui ont collé. Et très rapidement aussi, on avait désigné des coupables. Ça, c'est l'autre souvenir que j'ai instantanément, je pense, dès le lendemain dans la presse. On parlait pas du tireur, on parlait pas de la mosquée, on parlait des radios de Québec qui étaient responsables avec des grands titres, des propos qu'on avait beurrés bord en bord, qu'on était allé chercher sur 10 ans. On voulait mettre ça sur le dos de la radio. Et dans le procès, un juge, à un moment donné, s'est senti le devoir d'intervenir pour dire que les médias n'étaient pas à blâmer dans la tuerie de la mosquée et qu'il fallait chercher les réponses et les causes ailleurs. Pour qu'un juge se sente obligé d'interpeller le sujet à l'époque, c'est que du monde qui avait vraiment exagéré là-dessus.
Puis on l'a peut-être échappé belle, quoique c'est drôle à dire quand même, parce qu'il y a eu malheureusement 6 morts, 19 blessés cette soirée-là, mais c'est la semaine d'avant ou dans le procès. T'as-tu couvert ce procès-là, toi, Pascal?
Oui, avec les images.
C'est la semaine d'avant ou peut-être quelques jours plus tard, Alexandre Bissonnette avait été à Place Laurier.
Oui.
Puis, il était dans un stationnement souterrain. Il était prêt à faire exactement ce qu'il voulait faire peut-être plus tard à la Grande Mosquée de Québec. Puis quand il est arrivé pour sortir de sa voiture, il a vu une caméra de surveillance. Puis là, il a cru à ce moment-là qu'il avait été identifié ou vu par les agents de sécurité. Fait qu'il a décidé de sacrer son camp.
Exact.
Ça aurait été épouvantable, quoique la Grande Mosquée, le massacre qu'il y a eu, ça a été effectivement épouvantable. Mais moi, je me souviens, ça va être marquant toute ma vie. J'étais chez moi, j'étais en train d'écouter tout le monde en parle. J'étais sur mon petit sofa.
C'est vrai, c'est un dimanche. Hein? Tu me rappelles que c'est un dimanche.
Comme un bonhomme. Puis je regardais ce qui se passait sur Twitter. Puis à un moment donné, je vois un auditeur qui m'écrit « Yann, je suis à côté de la mosquée, puis il y a des coups de feu. » Là, je dis qu'est-ce que tu veux dire des coups de feu? Là? C'est les policiers qui ont ouvert le feu? Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que là, j'appelle DH de l'époque, puis je dis « Je m'en vais à la station, il se passe de quoi à mosquée? » Je suis descendu de Sainte-Marie-de-Beauce jusqu'à Québec. Je salue le policier qui m'a flashé les lumières. D'après moi, il s'en allait à la même place que moi, mais il m'a flashé les lumières sur le pont La Porte. Puis c'était bizarre. On arrive là, on rentre en onde. Puis moi, j'ai rien, je suis seul, mais je sais que les collègues s'amènent parce que, veux pas, on avait un canal où on se jasait.
Ouais.
Je suis seul, j'ouvre les lignes, je dis, si vous êtes dans le secteur de la mosquée, appelez-moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et on a passé 4-5 heures en onde ce soir-là avec des témoignages, des gens qui avaient de la famille à l'intérieur de la mosquée, des gens qui avaient été victimes, qui avaient réussi à se sortir de là. C'était une soirée épouvantable à vivre.
Puis là, on est en 2025. Ça fait 8 ans, tout ça. Il y a des choses encore qui ne sont pas nécessairement éclaircies. Puis moi, je veux savoir comment quelqu'un se rend là, tu sais. Parce que je lisais ce matin, tu sais, dans les rapports, dans les descriptions, c'est un gars qui en voulait vraiment aux immigrants au point où il pensait que des terroristes allaient s'attaquer à sa famille. Mm. Comment tu te rends là? Comment on entretient ça? Comment on n'adresse pas ça? Comment quelqu'un qui pense ça camoufle ça? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'environnement, on n'a pas beaucoup parlé de la famille. Moi, c'est des choses qui m'intriguent encore aujourd'hui.
La santé mentale, l'isolement. On a vu le même portrait type avec Kim Vergil, qui avait tué Anastasia de Souza, si je ne me trompe pas. C'était au collège Dawson, de mémoire. Puis c'était un gars qui était seul, qui était dans son sous-sol, qui, entre les deux oreilles, ça n'allait pas. Propriétaire d'armes à feu, même affaire pour Alexandre Bissonnette.
Ouais.
Propriétaire d'armes à feu. Puis c'est bel et bien dit. Hein. Si vous avez un collègue ou un ami qui est propriétaire d'armes à feu, puis vous savez qu'il ne va pas très bien, vous pouvez appeler la police pour dire, entre les deux oreilles, ça ne va pas. Vous pourriez peut-être lui retirer ses armes le temps qu'il fasse un peu d'ordre dans sa vie. Puis malheureusement, dans le cas Kim Vergil, ça n'avait pas été fait, alors que son père, qui était au deuxième étage, savait que son fils allait crissement pas. Puis ça a été la même affaire pour Alexandre Bissonnette. Les gens qui travaillaient avec Alexandre Bissonnette savaient que le gars, il était weird as fuck, là. Et même affaire pour ce qui est de ses amis. Son frère aussi avait remarqué qu'Alexandre Bissonnette allait pas du tout.
Mais tu sais, on présume que...
Il y a rien qui s'est fait.
On présume que weird, c'est weird original ou weird crise d'adolescence.
Weird
ou
freak,
Tu sais, c'est pas weird tuer du monde.
Exact.
Tu comprends-tu la marge entre les deux? Puis j'imagine qu'on présume toujours le mieux quand c'est quelqu'un de nos proches. Tu sais, souvent, quand quelqu'un va être accusé au criminel, puis c'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années...
On pensait pas ça de lui.
Ben on l'a vu avec Guy Cloutier. Voyons, ça se peut pas, c'est mon ami. Lise Payette a déshonoré sa fin de carrière en défendant un de ses amis d'agression
Claude
pédophile,
Jutras.
Claude Jutras, effectivement.
Mais c'est une
ça
protection.
Se peut pas, c'est mon ami.
C'est une protection émotive, puis elle est super dure à enlever, à déconstruire.
J'imagine.
Parce que tu le connais, toi, cet individu-là, d'une toute autre manière... T'as vraiment pas envie d'être la personne, c'est pas coupable au sens de la loi, mais coupable de ne pas avoir vu ça chez cette personne. Fait que la façon de se protéger, parce que t'as pas été capable de le voir, puis t'as pas été capable de protéger d'autres personnes de ces comportements-là, c'est de te dire inconsciemment, consciemment, non, c'est pas vrai. C'est une bonne personne. C'est pas parce qu'elles sont des mauvaises personnes, les personnes qui vont se commencer à dire ça, ils sont juste pognés dans une genre de cage extrêmement émotif.
Si on regarde les interrogatoires d'Alexandre Bissonnette qui sont disponibles sur YouTube, soit dit en passant, à un moment donné, l'enquêteur dit « Oui, les gens sont décédés. » Hein? Sont décédés? C'est comme s'il n'était pas capable de faire le lien avec ce qui s'était passé. J'ai entendu les appels aussi, alors qu'il était sur Dufresne-Montmorency. Je te dirais peut-être 200 à 300 mètres juste avant le pont de l'île d'Orléans, où là, il parle avec un gars du 911 qui avait un sang-froid incroyable, qui a dit « Alexandre, on est avec toi. Puis comment ça va? T'es-tu armé? » Puis là, les policiers vont venir te voir et tout ça. C'est comme s'il était comme pas au courant de ce qui s'était passé.
Puis en même temps, ben dans le procès, ça a été établi qu'il a feinté une psychose parce qu'il voulait invoquer la non-responsabilité criminelle. Puis quand les psys l'ont pas cru, Yann, il a changé de stratégie puis il a décidé de plaider coupable. Donc, est-ce que déjà là, il commençait à jouer son rôle? Ça, je peux pas te le dire. T'sais, on parlait des époques, à quel point ça a changé. Puis on parlait de quelque chose de beaucoup plus léger tantôt avec les Tom Green, avec les Jackass de ce monde et ainsi de suite. Il y a des choses qui ont changé en 8 ans. Tu sais, à cette heure, des menaces de mort, on niaise plus avec ça. Tu sais, il y en a peut-être qui trouvent qu'on exagère, puis ainsi de suite. Moi, je pense que c'est une bonne chose. À partir du moment où quelqu'un ouvertement menace quelqu'un de connu, menace la famille de quelqu'un de connu, je pense qu'il faut y aller avec des peines exemplaires. Il y a une maudite marge entre « Hey, je pense que politiquement, tu fais un très mauvais travail, et si tu changes pas de discours, je vais tuer ta famille. » Puis commencer, moi, à adresser ces choses-là. Puis peut-être qu'on est devenu... plus attentif aussi. On a vu des problématiques de santé mentale où des parents sont allés voir les policiers pour dire « Mon fils, c'est une bombe à retardement actuellement. Venez nous aider. » Bon, dans le cas qu'on raconte, évidemment, ça s'est mal terminé. Peut-être que les policiers n'ont pas suffisamment intervenu rapidement. Mais tout le monde apprend là-dedans, je trouve. Puis pour la région de Québec, cette tuerie-là, ça a été, je pense, un gros wake-up call là-dessus du genre « Oui, oui, ça peut arriver ici aussi. » On se plaçait un peu à l'écart de toutes ces choses-là à Québec. Denis Lortie s'était rendu trop loin. La nouvelle génération ne connaissait pas cette histoire-là. Malheureusement, chaque génération apprend avec une tragédie. Mmh. Puis je pense que pour notre génération, à nous autres, ça a été le petit rappel que des affaires de même, ça pouvait arriver n'importe où, puis qu'il fallait peut-être être plus attentif à ce qui nous entoure et aux gens qui nous entourent.
Il faut faire attention avec la peur de l'autre aussi. Je trouve ça des fois un peu complexe, puis je l'ai vécu de près avec quelqu'un que j'affectionne énormément. Mais je vais me rappeler d'une scène toute ma vie. La personne avait un petit peu trop bu, mettons, ce soir-là. Puis est venue qu'à sortir des choses, je pense, qu'elle avait dans sa tête, mm-hmm. mais qu'elle disait pas quand elle était à jeun.
Ouais.
Puis c'était vraiment teinté d'une peur de l'autre. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé, qui n'était pas dans une époque où il pouvait le faire. Mais c'est venu qu'on avait une discussion politique. Puis la personne est devenue enragée, mais à un point, elle s'en est attaquée à moi en disant « Quand tu vas venir ici, puis ils vont faire sauter ta famille... » Tu vas trouver ça bien particulier, puis tu vas changer de discours. Je me rappelle, ma soeur était à côté. On était dans une salle où il y avait plusieurs personnes. Puis je me rappelle d'être saisie, de me dire, « Hein, cette personne-là tient un discours que j'aurais jamais cru qu'elle tient. Mmh. » Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand tu as une méconnaissance de l'autre, puis que... Il y en a du terrorisme, il y en a des gens qui vont foutre la merde, il y en a du monde qui vont commettre des gestes qui sont criminels, qui sont... épouvantable, mais c'est pas la majorité. Puis dans l'alimentation de la peur de l'autre, des fois tu vois sur Facebook, puis je pense que c'est pour ça des fois j'ai la mèche courte un peu plus en onde, puis j'essaie de faire des nuances, puis tout, parce que ne serait-ce que ça me revient tout le temps en tête cette scène-là, probablement que dans les discours de la personne qui s'est ouverte parce qu'elle était alcoolisée à ce moment-là, il y avait des pistes que j'aurais pu prendre, puis ouais. ouvrir un dialogue avant que ça se rende là, tu sais.
Il y a des gens qui réagissent très mal au changement. Alexandre Bissonnette a grandi dans un Sainte-Foy qui a radicalement changé en l'espace de 10-12 ans. C'était un quartier blanc.
Familial. Plate.
Et en l'espace de 10-12 ans, ça a changé. Est-ce que pendant ce temps-là, lui nourrit sa peur de l'autre, lui nourrit son incompréhension, sa frustration peut-être? Je ne sais pas comment ça marche, mais tu as beaucoup de gens qui ont peur alors que tu ouvres le journal, puis des crimes blancs de souche. Je veux dire, on peut remplir un bottin téléphonique avec ça. Je me souviens d'une vidéo que j'avais partagée sur les réseaux sociaux le lendemain de l'Halloween. Une vidéo où on voyait une caméra de porte.
Avec Giroir?
Non, c'est... mon Dieu. C'est dans une maison de Charlebourg au Beauport.
Okay. Vraiment Halloween normal.
Je pensais que tu
parlais de non, absolument pas ça. Non. C'est cette année. Tu vois une dame passer l'Halloween avec son fils, puis il y a un plat de bonbons, puis c'est servez-vous, prenez-vous un bonbon. Puis là, le kid vient chercher un bonbon, puis là, sa mère a dit non, retourne, vide le plat. Puis moi, je partage ça en me disant tabarnouche, les gens, ça n'a pas de rapport. Et je laisse aller les choses parce que je ne suis pas tout le temps sur mon Facebook. Puis je reviens quelques heures plus tard, puis je lis les commentaires. Puis moi, j'avais même pas remarqué la couleur de peau de la mère ou whatever.
T'avais vu le geste.
Le trois quarts des commentaires, c'était « Ben, regarde. Regarde quoi? Ben, regarde d'où ce qu'elle vient. Là. On sait bien.
Oh. »
Dire des affaires de même, vous avez jamais vu des hommes blancs de souche au club des Jardins du Centre Bell pendant une game du Canadien.
Ou dans un bar.
Tu sais, quand la bouffe est fournie, là.
Oui.
Du monde qui savent pas vivre, là, ouais. Qui se font quasiment vomir. Oh, c'est gratuit. Avez-vous déjà vu des Québécois blancs de souche à Cuba? Ça va être beau. Le racisme à deux scènes, hein? En frais de colonialisme et de colons en lettres majuscules, aussitôt, on donne pas notre place.
Le ouais, ratio, pis, mettons qu'on le faisait.
Ça va être beau. Ça va être beau donner des leçons aux autres.
Il y a l'algorithme aussi. Tu sais, quand tu commences à faire des lectures, puis tu reçois tout le temps de l'information qui te nourrit puis qui te conforte dans tes idées, puis tu rencontres des gens sur ton Facebook qui ont à peu près les mêmes idées que toi, tu as l'impression que tu n'es plus le seul à penser de même, mais tu as l'impression que tout le monde pense comme toi.
Le rabbit hole.
Ben, c'est ça. C'est le fameux algorithme. Mais juste pour en revenir, pour l'utilisation des armes à feu, quand il y a des propriétaires d'armes à feu,
Il y a un cas qui a été médiatisé. Moi, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est un retraité de l'armée canadienne maintenant. Puis quand il s'est séparé de sa conjointe, il allait vraiment pas entre les deux oreilles. Il perdait la garde de ses enfants. Il se séparait de sa conjointe. Puis sa conjointe, son ex-conjointe, par amour, a dit « Je vais appeler la police parce que j'ai peur que tu te fasses quelque chose. Ouais. » avec ton arme à feu.
Puis je pense que c'est quel le bon courage. Geste à
fait,
faire.
Il s'est fait retirer. Il n'a pas été heureux au départ de se faire retirer ses armes. Il n'en avait même pas de besoin. Il n'était même pas dans le temps de la chasse. Mm-hmm. Mais c'était comme une insulte pour lui de se faire retirer les armes parce qu'il disait, voyons, je suis un retraité de l'armée canadienne. Je ne suis pas quelqu'un de dangereux. Moi, j'ai toujours défendu les bombes. J'ai tout le temps fait face aux méchants. Mais avec du recul, il s'est aperçu que ça l'avait aidé. Fait que si cette histoire-là de la mosquée de Québec, ça peut nous donner ces idées-là, si on a des amis proches qui ne filent vraiment pas et qui sont propriétaires d'armes à feu, un appel à la police, puis ils vont peut-être vous en vouloir au début, mais après ça, ils vont peut-être comprendre le geste des avoir dénoncés puis des avoir retiré les armes pendant quelques semaines.
Petit message aux gens de la mosquée qui semblent déçus de voir que leur journée commémoration, que leur journée porte ouverte, tu sais, année après année, il y a de moins en moins de gens qui se présentent. Consolez-vous en disant que, pardon, la discussion, elle a continué. Mm-hmm. La réflexion a continué. On vient d'en parler là, depuis une demi-heure ensemble. Je pense qu'on a ouvert plein de pistes de discussion, de réflexion. C'est pas parce que les gens y vont plus. La mémoire, la vie est faite comme ça. T'sais, chaque année, on est moins interpellé au niveau émotif, puis on y va peut-être moins avec des gestes concrets. Mais la discussion, elle, a continué. Puis les réflexions, ils continuent
encore. Mais au-delà de ça, Denis, t'sais, un an, cinq ans, 10 ans, ouais. 20 ans.
C'est ça.
C'est là où on se rappelle de ce qui s'est passé.
C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Là, t'sais.
Ouais, voilà, tout simplement. Hey, on parlait de la stratégie de Geneviève Guilbeault et de la Coalition Avenir Québec de peut-être noyer le poisson dans l'histoire du tramway. On a un ministre de l'Environnement qui semble s'être trouvé une façon de repousser la fameuse échéance là, de la fin des ventes de véhicules à essence.
Qu'est-ce que je t'avais dit? Faites-vous pas de stress avec ça. On va saisir toutes les portes de sortie pour pas remplir notre promesse.
C'est la faute au gros orange, l'autre bord. Là.
Ouais, 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 il va falloir s'ajuster. Hein. Ouais, mais si tu sais pertinemment dès le départ que t'atteindras pas ton objectif. Ah, oh, moi, janvier, résolution, je vais perdre 120 livres. Man, t'en payes 160. Je vais perdre 120 livres. Tu perdras pas 120 livres. Regarde-moi aller. Regardez-nous aller. Je vais perdre 120 livres. Tu perdras pas 120 livres, triple idiot. Dis-nous que tu vas perdre 20 livres sur l'année.
V'là un mois, Benoît Charrette était en pleine page. Il était à côté sur un char électrique. Il était super content avec ses lunettes beaucoup trop grandes pour sa tête. Puis là, il disait, il n'y en aura plus d'essence au Québec en 2035. Vous en trouverez plus. Les stations-service vont se faire rares. Et là, l'orange arrive. Puis là, tout d'un coup, ouais, on va devoir repousser cette date-là. C'est... 2035, c'est peut-être un peu trop court. Là.
C'est pas la dernière fois que vous l'entendez, puis c'est pas la dernière excuse qu'on trouve non plus dans ce dossier-là.
Donc, on avait déjà prévu une révision pour 2026, à savoir si la fameuse date du 2035, ça tenait. Là, on est en train de se trouver une bonne raison. Là, c'est Donald Trump. C'est pas le fait qu'on manque d'électricité au Québec, puis qu'on manque de barrages, qu'on manque d'éoliennes pour en produire.
Non. Ou que la promesse de départ était complètement irréaliste et irréalisable.
Mais c'est l'arrivée de Donald Trump qui fait en sorte que la CAQ a pas le choix.
Puis Trump, je comprends qu'il emmène large, mais il va avoir le dos très large aussi. Si le tramway se fait pas, ça va être de la faute à Trump. Si le troisième lien se fait pas, ça va être de la faute à Trump. Si le Canadien fait pas les séries, ouais, ça va être dur à coller, mais ils vont l'essayer. Ils vont l'essayer.
Guilbeault qui se fait encore accuser de vouloir passer aux conservateurs. On avait passé un extrait, si tu te souviens bien, de l'Assemblée nationale où, nous autres, c'est des rumeurs qu'on entend, autant d'Ottawa qu'à Québec, pour ceux qui suivent le fédéral. Elle aurait appelé des jeunes dans l'entourage de Pierre Poilievre pour signifier qu'elle serait peut-être disponible aux prochaines élections fédérales pour embarquer dans l'équipe de Pierre Poilievre. Puis les rumeurs disent, en 30 secondes, ça a été un beau gros non. Mm-hmm. Et après ça, quelques heures plus tard, ça s'est retrouvé à l'Assemblée nationale où Geneviève Guilbeault avait dit non, je n'ai jamais été dans la même pièce que Pierre Poilievre, alors que c'était pas ça la rumeur, c'est qu'elle l'aurait appelé.
C'est ça, la technologie aidant. Tu peux parler quand même à quelqu'un.
Et Québec solidaire qui l'accuse de vouloir faire partie du gouvernement conservateur, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que Geneviève Guilbeault fait bien de mesurer ses avenues. Je pense que c'est quelqu'un qui a été opportuniste dans sa carrière, puis je le dis pas comme un reproche. Je pense qu'il y a du bon opportunisme. Je pense qu'elle en a bien profité. C'est une dame qui a de grandes capacités.
Oui. C'est une des bonnes communicatrices qu'on a eues comme ministre responsable de la grande région de Québec. Tu sais. Jonathan Julien, il est bien gentil, mais au niveau de la communication, ça n'a rien à voir avec
le capable d'être limpide et clair, oui, mais capable aussi de faire comme les Français. Faire plusieurs phrases, mais il n'y a pas grand-chose qui en ressort.
Mais ça sort bien.
Mais ça sort bien.
Je vais te donner un exemple. Mettons que je veux ta job ici. Mon objectif, c'est d'avoir ton micro, ta job.
Qu'est-ce qui te motive?
Je travaille plus, j'en fais 5 par jour.
Oui, je sais.
Plus, tu vas être condamné à travailler avec moi, là. Bonne chance.
C'est complètement fictif, c'est trop d'ouvrages, puis tu travailles avec Pascal CV. Non, mais mettons que mon objectif à moi, c'est d'avoir ta job. Et qu'à un moment donné, tu annonces à tes auditeurs, « Hey, j'ai re-signé pour les 5 prochaines années. » Allons-y avec un exemple politique. Tu as re-signé pour les 4 prochaines années. Oui, je vais appeler Énergie. Oui, je vais probablement appeler chez Cogeco. Lui demander, le gros Dupont, il a signé combien de temps encore? Je serais peut-être intéressé après, je sais pas. Mais tu comprends-tu? Ce que Geneviève Guilbeault fait, c'est que... Bon,
faudrait que je charge...
9 999 $!
Ta malade! C'est complètement brûlé, 9 999 $!
Hey, tu le limites bien!
Ouais, j'aime ça être fâché de même. Je le ferais tout le temps si j'avais pas peur d'avoir une action par la tête ou encore pire.
OK, alors postule pas pour la place à Yannick, je peux pas.
Non, mais tu comprends-tu? C'est que dans le cas de Geneviève Guilbeault, je pense qu'elle aspire à être chef de la CAQ, qu'elle aspire à être première ministre, mais à partir du moment où ça se réalise pas à moyen terme...
À matin, elle passe pas dans son comté s'il y a des élections.
Ouais. Fait que c'est peut-être pas le seul téléphone qu'elle a fait. Là,
je disais à Yannick, je suis même pas sûre que, mais, que admettons, les gens au fédéral qui sont plus de droite voteraient pour elle. Mm. C'est une cause perdue. Poilievre, il voit pas d'opportunité là-dedans. Je trouve même pas que c'est réfléchi qu'elle en voit une opportunité.
C'est fini, Guilbeault, c'est fini, ta carrière est finie. Tu seras pas numéro 1, tu seras pas numéro 2, tu vas être numéro 2999, ils vont te mettre au vidange, c'est fini. Passe plus de téléphone à Poilievre, ça va pas dans ta part, c'est ton opportunité, il est trop tard ici.
Hey, tu l'as tellement bien! Je peux-tu le mettre à côté? Non, OK, je peux pas le mettre à côté.
Non.
Pourquoi tu voulais te mettre à côté?
Je voulais le mettre à côté. Le
non,
son.
Non.
Ben, gars, mon père sera pas fru que tu le limites, là.
Personne n'a le goût d'aller là.
1031. Merci, Denis.
Salut, là.
Salut. Gravel dans le retour.
Vous voulez suivre des formations, vous savez pas où aller, mais vous en voulez pour peut-être vous perfectionner au niveau professionnel, être un meilleur gestionnaire, être un meilleur employé, accroître l'agilité de votre processus personnel, développer le plein potentiel de l'équipe que vous avez au quotidien autour de vous, ou tout simplement peut-être pour améliorer continuellement la satisfaction de vos clients au sein de l'entreprise. Il y a des experts qui vous donnent des formations qui sont prouvées, réputées et simples, efficaces. Et au campus Lean, L-E-A-N, on vous accompagne, que ce soit en coaching ou encore en tant qu'organisation, pour toute l'efficience organisationnelle, l'amélioration continue de la performance des affaires. Si ça te sonne une cloche, si tu as ça à cœur, si tu as le succès des entreprises québécoises également à cœur, en résumé, Campus Lean, là, ça t'offre différentes formations et conférences qui t'accompagnent dans le développement d'une expertise qui est durable, qui inspire la performance en continu et qui est absolument moderne, penchée sur le « ici, maintenant ». Campus, LEAN.com, consulte les formations, les conférences et ou encore toute information supplémentaire. Ça vaut le coup d'œil. Campus Lean.
Les ailes. Mandaille sans pantalon sur Twitch.
Je refuse la sexualisation de la femme.
Ah, ça tombe bien. Marceau aussi.
Marceau le midi. Le midi.
1042, c'est moins 13 degrés sur Québec. Si vous travaillez à l'extérieur, on vous salue principalement les gens qui sont à l'aéroport de Québec, qui sont sur le tarmac, qui s'occupent de vos bagages sur le tarmac.
Ça t'a marqué, hein?
Ah, moi, ces gens-là, c'est des dieux, là. Travailler à moins 24 au grand vent. S'il y a bien un endroit où ils vendent, c'est bien à l'aéroport de Québec, là. Il n'y a pas de bâtisse. Puis ces gens-là sont très heureux de travailler au travers des avions puis de faire leur travail, mais... Écoute, il y en a qui ne feraient pas ces jobs-là pour 200 000. Là.
Les éboueurs, je dis.
Ouais, mais quand... Les autres, ils peuvent se réchauffer un peu dans le camion, sauf que quand tu es à l'extérieur et tu mets des valises dans l'avion, Chauffage est assez rare à l'extérieur. De la neige pour aujourd'hui, accumulation entre 2 et 4 cm. Des vents entre 50 et 80 km/h tout au long de la journée. Moins 31 au courant de la nuit, c'est ce qu'on nous annonce. Pour ce qui est de demain, jeudi, c'est le retour du soleil, maximum de moins 14. Vendredi, de la neige, maximum de moins 9. Samedi, ensoleillé, maximum de moins 15. Et dimanche, de la neige intermittente avec un maximum de moins 10 degrés. Défaite du Canadien hier, 4-1 face aux Jets de Winnipeg. C'est une troisième défaite de suite. Juraj Slavkovski, qui était le seul marqueur du CH. Caden Goulet qui a malheureusement quitté le match. Je sais pas de... J'ai pas de rien qui me dit comme quoi il va rater les prochains matchs, mais avec le visage de Martin Saint-Louis hier, quand il a appris la blessure de Caden Goulet, j'ai l'impression qu'il va rater plusieurs semaines. Donc là, on est en attente des nouvelles. Puis retour en action dès demain pour le tricolore face au Wild du Minnesota. Ça va se passer au Centre Bell.
Ça finit quand le hockey, là?
Ça finit, c'est
jamais.
C'est loin, je pense, c'est mai-juin dans ce coin-là. Là. Valérie Gaudreau, salut!
Hey, salut! Bonjour Yannick, bonjour Pascal.
Tu suis tout ça, toi, le hockey?
Oui.
Oui?
Mais il fut une époque où j'étais beaucoup plus alerté. Pas juste avant 1995, là, je souligne. Pas juste une fafane des Nordiques, là. J'ai continué, mais on dirait que j'ai un petit peu relâché ces dernières années.
Ouais.
Alors, on a eu des commentaires quand même.
On a eu des bonnes nouvelles pour le Centre Vidéotron. On va avoir la visite des sénateurs d'Ottawa. Puis la bonne nouvelle, en plus de celle de la visite des sénateurs qui vont affronter, entre autres, le Canadien, bien qu'ils vont faire, ils vont faire ça sans subvention.
Et voilà, c'était, il fallait le préciser parce que c'est tout ça à la lumière de... J'en reviens pas encore! Ah, ça a été annoncé en novembre 23, si je ne m'abuse. Le match avait lieu quasiment un an plus tard, en octobre. Les deux matchs des Kings, là, pour remettre en contexte, on a parlé d'un score final de 5,6 millions de la CAQ. Quel drôle de jugement. Puis j'ai l'impression que l'annonce de cette semaine remet en exergue encore à quel point on a été beaucoup trop généreux avec ces équipes qui n'en ont pas besoin. Alors, la vitalité, mais j'étais aussi, parce que tu dis, bon, le hockey, est-ce que je suis le hockey? Moins, tu sais, je suis moins à jour sur ces stats de la LNH, mettons, mais c'est le genre de match auquel j'aurais envie d'assister, bien sûr, et j'étais aussi pour la Ligue d'hockey féminin, là. J'ai allé dans ce centre Vidéotron plein à craquer dimanche le 19 janvier, c'était complètement fou. Alors, tu penses que le marché de Québec est là, les gens aiment ça, ça n'a jamais été question de « on aime-tu le hockey ou on ne l'a pas », c'était la subvention qui a dérangé dans le cas des Kings,
ouais.
Et je pense que ça a collé à la peau de Ministre Girard. On a vu hein, Marc Tanguay, le chef intérimaire libéral avec son le chandail, le king des déficits. Tu sais, ça a créé là, instantanément, Yannick, une imagerie que même les concepteurs publicitaires en marketing n'auraient pas rêvé, là, ouais. Tellement c'était gros.
Mais au-delà de ça,
Tom Tramway, ouais. Là, deux bonnes campagnes.
Il y a de l'incompréhension, ouais. Valérie, parce que là, on a donné 5,6 millions de dollars pour casquer je ne sais quoi, alors que le Centre Vidéotron était bien plein pour la venue des Kings pour les deux soirs. Et là, les sénateurs arrivent, ne demandent pas une scène. J'imagine que ça va être bien plein aussi. Fait que, qui a fait de l'argent? Qui en a pas fait? Ce que je trouve curieux, c'est qu'on n'ait pas accès justement aux chiffres parce que là, ça touche des entreprises privées, mais il en demeure pour moi que ça a été fait avec de l'argent public et ça, il devrait y avoir une loi. À partir du moment où on utilise l'argent du public pour donner une entreprise privée, ben il faut que les coûts soient au moins donnés à la population. Puis ça n'a pas été le cas dans le cas des Kings de Los Angeles. Puis il y en a qui disent « Oh, mais on a donné de l'argent aux Kings. » Non, non, on a donné de l'argent aux organisateurs qui étaient Gestev, propriété de Québécois.
Je t'applaudis. C'est ce combat pour la lutte à l'accès à l'information qu'on mène depuis longtemps. Je l'ai mené au sein de la Fédération professionnelle des journalistes aussi. C'était le cas, là. Écoute-moi, un des souvenirs, je ne vais pas encore une fois traduire mon grand-père, mais à l'époque de la Société du 400e, vous vous souvenez, en 2008, quand on avait... il y avait énormément de fonds publics là-dedans, mais c'était une société para, semi, privé, public. Donc, c'est des espèces de domaines comme ça où on est à côté au public. C'est des fonds publics, mais ultimement, soit c'est une société parapublique qui échappe à la loi à l'accès à l'information, ou carrément privé, mais avec des fonds publics. Et des collègues hein, qui l'ont obtenu, nous autres au Soleil aussi, c'était là complètement caviardé. On avait le montant global, mais on ne savait pas. Donc là, à ce moment-là, tout est possible. Est-ce que ça a juste servi à payer des restos au Château-Frontenac? Est-ce que quand il allait donner des toutous aux enfants malades, les toutous ont été payés par nos taxes? T'sais? Ça pose beaucoup de questions. Et ça aussi, ça colle à la peau du gouvernement, ce manque de transparence concernant ces fonds publics-là qui profitent à du privé essentiellement. Alors ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste qui est extrêmement intéressant parce que ça peut même ultimement, on le sait, forcer des fois hein, à créer des... On l'a un petit cas à Québec, hein, par exemple, pour la publicité sur à vélo. Ça n'a pas rapport comme lien, là, mais l'opposition avait critiqué ça en disant ça s'appelle Capital Mobilité, puis eux, ils peuvent aller comme faire des partenariats privés, des marchés pour rendre plus rentable à vélo, qui est un service payé par les contribuables de Québec.
Et qui est vraiment, alors, là, pas, et qui est vraiment pas rentable.
Fais attention. Moi, je suis complètement biaisée. J'ai beau m'être scrappé les deux genoux avec ces vélos-là, j'aime encore ça. Je suis vraiment biaisée. Je peux pas commenter, mais fais attention.
Ça nous coûte une fortune.
J'ai aimé... Non, mais là, c'est deux contre un, Yannick, parce que, tu sais, mon amour de vélo, j'ai usé, moi, mon abonnement cet été à vélo. Mais cela dit, c'est le genre de... À plus petite échelle, c'est le genre de subdivision qui relève du privé, qui n'est pas soumis à la loi d'accès sur les documents et les informations publiques du gouvernement du Québec, qui est une loi auquel réfèrent tous citoyens et les journalistes. Et dans ce cas-ci, c'est très fâchant de ne pas avoir la ventilation des dépenses pour l'équipe.
Valérie Godreau du Soleil, j'ai appris une bonne nouvelle te concernant.
Oh!
Ça va te prendre un chapeau de cow-boy et des bottes de cow-boy en mars prochain.
Écoute, moi qui aime beaucoup les États-Unis, je dois dire, j'ai eu la chance d'avoir quelques de beaux grands déserts du Nevada à l'Arizona, au Utah, oui. Mais vraiment le Texas. Alors oui, j'avais accompagné le maire Bruno Marchand dans cette mission 19 au 24 mars à San Antonio. Ça a été annoncé, puis pourquoi ça revient un peu dans l'actualité, c'est qu'il y en a eu question hier, hein, parce qu'on a souvent dit au maire, bon, c'est beau aller en Europe, en Scandinavie, puis voir des métros, puis voir des vélos, mais est-ce qu'on a assez tissé de liens avec les entrepreneurs, avec les États-Unis? On l'a vu, une mission à Boston, mais là, clairement, donc ça avait été annoncé, ouais, puis ça fait un bout de temps, j'ai fait beaucoup de missions, petite coulisse de ma carrière, humble carrière de journaliste, j'ai eu la chance de faire beaucoup de missions avec Régis Labombe à une autre époque, la Suisse, on était allé à Calgary, New York, on était allé en France à quelques reprises, donc à Silicon Valley aussi, on était allé en Californie, donc c'est intéressant, c'est le rôle des médias de voir est-ce qu'il va là pour véritablement faire des rencontres productives, est-ce que c'est on essaie aussi de parler des lecteurs, et là moi je t'avoue, je me sens privilégié, tu parles de bonnes nouvelles, mais dans le contexte actuel des tarifs, comment sont perçus les Canadiens d'aller vivre ce sentiment un peu au Texas, donc cette nouvelle patrie d'Elon Musk, ça va être très intéressant.
Mais ça va donner quoi? Je veux dire, au total tout, c'est Donald Trump en haut qui décide que le maire rencontre des gens au Texas, ça va déranger qui? T'sais, on a un premier ministre du Québec qui, au lieu de faire des pieds et des mains pour rencontrer Donald Trump, comme Daniel Smith l'a fait pendant deux jours à Mar-a-Lago, a décidé d'écrire une lettre qui a eu très, très peu d'impact. Ouais. Là, on a des maires de certaines villes qui s'en vont rencontrer des fonctionnaires l'autre côté. En bout de ligne, ça va donner de quoi? C'est le grand orange qui décide?
Bien, ça peut être joué sur des partenariats bilatéraux provinciaux, parce que dans on le disait, 37 États américains ont comme principal client le Canada. Là, c'est pas le maire qui va aller juste serrer des mains dans des visites d'entreprise. Ce que je trouve intéressant de cette mission, et on dit qu'il y a eu un bon taux de succès, un grand intérêt avec Québec International, qui représente des entreprises de Québec dans certains secteurs visés. Oui, la haute technologie, mais ça peut être dans du manufacturier ultimement aussi. Donc, c'est l'idée de parler d'État à État, d'entreprise à entreprise. Est-ce qu'ultimement, ces gens-là peuvent faire pression, par exemple, dans un cas, on le sait même pas, hein? Je veux dire, on peut avoir les tarifs dans 48 heures, comme on peut ne même pas avoir cette menace-là rendue au mois de mars. Alors, l'idée de créer ces liens-là, c'est de dire, au-delà des grandes décisions du gouvernement, c'est des États aussi. Il y a des États qui sont gouvernés, qui ont différentes couleurs politiques. Nous, on a des partenariats, des amitiés, donc de penser à nous, de faire pression, peut-être ultimement aussi sur leurs instances locales. Si on t'as un manufacturier qui dit, moi, je m'excuse, là, mais telle affaire que j'achète, ça va me coûter le double, puis c'est les Américains qui vont payer, puis c'est finalement l'objectif de réduire l'inflation de Donald Trump ne fonctionnera pas, ben peut-être que ça peut sensibiliser.
On va le souhaiter, du moins, parce qu'à un moment donné, faut que ça soit rentable, ces voyages-là. Qu'est-ce qui se passe avec Geneviève Guilbeault? Qu'est-ce qui se passe avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette? Benoît Charrette qui a trouvé une façon pour repousser la fameuse date de 2035 là, pour ce qui est de l'interdiction des véhicules à essence en disant que c'était Donald Trump, l'autre bord, qui causait des problématiques, alors qu'on sait très bien qu'on n'est vraiment pas prêt pour 2035. Geneviève Guilbeault, qui, il y a de ça quelques jours, dit « Ouais, là... faudrait que Duclos dégèle un peu puis qu'on puisse avoir le fameux financement pour le tramway. Il semble y avoir une guerre. Il s'échange la balle de ping-pong tout le temps. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça niaise? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête de niaiser de cette façon-là?
Honnêtement, là, je ne sais plus. J'ai écrit hier une chronique qui a eu d'ailleurs une bonne résonance. C'est publié lundi, par exemple. Ça s'appelait le désolant feuilleton du tramway. Actuellement, là, Mme Guilbeault, elle met tout le monde, Yannick, contre elle. Parce que d'un côté, si t'es pro-tramway, tu trouves qu'elle est en train d'un peu noyer le poisson en perdant encore du temps. Si t'es anti-tramway, ben là, moi, ce que je commence à entendre, puis les lecteurs du Soleil m'en ont fait part, c'est des gens qui disent, écoutez, si ce projet-là n'est pas bon, là, on la tire tout de suite la plug. Si c'est ce à quoi elle veut venir, alors actuellement, il y a une position très inconfortable. On se demande un peu à quel jeu elle joue. Bon, j'ai vu la rumeur, là, c'est-à-dire que Québec solidaire va jusqu'à se questionner. Coudonc, veux-tu se présenter de M. Poilievre? Mais c'est très difficile. Mme Guilbeault, elle demande une exigence de 40% du gouvernement fédéral actuellement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle dit que c'est plus 40% du projet de tramway, mais c'était une bonne partie du montant quand ça valait 4 milliards en 2018. Là, c'est rendu à 7,6. C'est largement le gouvernement de la CAQ qui a changé aussi les échéances, qui est intervenu à divers niveaux. Pas seulement, je ne veux pas blâmer seulement Mme Guilbeault, mais il y a quand même eu des circonstances qui ont fait qu'on a perdu du temps dans le dossier du tramway. Et là, actuellement, ben, à exiger un 40%, la peur qu'on a tous, c'est que le 1,5 milliard qui est à toute fin pratique promis, puis monsieur, en tout cas, le fédéral nous dit que l'argent est là, en attendant, évidemment, que Poilievre arrive et le jette à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sécuriser? Et là, on sent qu'on privilégie une partie de ping-pong médiatique au lieu de s'asseoir ensemble. Moi, lorsque Mme Guilbeault, ça peut être justifié, mais lorsqu'elle a choisi de ne pas répondre à l'invitation de M. Duclos, on dirait, on peut-tu s'asseoir puis jaser puis essayer de faire quelque chose pour l'avenir? C'est sûr que de refuser une invitation, ça fait beaucoup là, qui donne une drôle d'impression.
C'est un peu inutile. Je trouve que ça sert à personne dans aucun contexte en ce moment. Puis ça prend tellement de temps d'antenne. S'il y avait quelque chose à dire de ça, en plus, je veux dire, elle fait partie de la CAQ, donc une coalition, elle peut être peu importe où sur l'échiquier politique, elle peut aller dans un parti, et là, par contre, elle affirmerait assurément de quelle couleur elle chauffe politiquement parlant. Mais je trouve ça complètement sot. C'est même pas un débat, c'est rien, ça prend du temps. Ça sert à quoi? À qui?
Écoute, c'est une des hypothèses, c'est moi, ce que j'exprimais assez clairement dans ma chronique, c'est de se dire, y croit-elle encore? Puis dès le début, moi, j'ai eu la puce à l'oreille le 16, ben, pas moi, là, je veux dire, pas meilleur que les autres, là, on s'entend, beaucoup de
ça
gens
dépend quoi?
Le disent. Ça dépend. Mais, en tout cas, j'étais présente le 16 décembre, donc j'ai eu une lecture de première main, mais à cette fameuse conférence de presse où on a confirmé avec la Caisse de dépôt qu'on allait de l'avant. Mais tu sais, la deuxième phrase, je pense, c'est de dire, mais vous savez, le financement du fédéral n'est pas encore ficelé. Donc, tout de suite, on sentait, puis vous vous souvenez peut-être, Bruno Marchand, à un moment donné, c'était tellement négatif par rapport au financement que là, Bruno Marchand, il discutait, là, mais on est quand même en train d'annoncer un investissement majeur pour Québec, là. On peut changer la vibe, tu sais. Donc, c'était cette impression qu'on ne voulait pas se réjouir. Et je pense que Geneviève Guilbeault, sans personnaliser sur la femme elle-même, il y a une chose, c'est qu'elle ne semble pas se réjouir tout ce qui a trait au tramway. Dès qu'elle a une occasion, elle parle du troisième lien davantage. Il y a une peur. On sait que le tramway, il divise. Électoralement, c'est pas. Mais si t'as un gouvernement qui dit on y va, tu y vas. Tu y vas en ligne ou tu y vas plus. Puis je pense que c'est un peu à cette croisée des chemins actuellement à laquelle on assiste du côté de la population et du côté du gouvernement du Québec. Est-ce qu'il y croit vraiment? Et tout ça ne sert à rien et il fait perdre du temps. Est-ce qu'on pense qu'on veut, on n'y croit pas trop du côté de la CAQ et on va jusqu'à étirer l'élastique, jusqu'à se rendre d'une potentielle élection de Poilievre qui va régler le problème en enlevant, en mettant plus une scène? T'sais. Ça serait un peu machiavélique, je pense.
Le 25 septembre dernier, on a parlé d'une rumeur qu'on entendait tant du côté d'Ottawa que de Québec là, pour les journalistes qui suivent le beat fédéral, qui mentionnait que Geneviève Guilbeault aurait approché la gang à Pierre Poilievre pour être dans le giron des conservateurs. Ce à quoi Geneviève Guilbeault avait réagi en disant à l'Assemblée nationale, dans les corridors, « Non, je n'ai jamais été dans la même pièce que Pierre Poilievre. » Pour la petite histoire, ce qu'il nous raconte, c'est que ça aurait été refusé en 30 secondes. Là. Elle n'a pas discuté avec Pierre Poilievre, mais il y aurait eu un appel aux membres de son équipe et on lui aurait dit non en 30 secondes. Et là, Québec solidaire qui revient en disant que Geneviève Guilbeault serait peut-être intéressée toujours par le fédéral. Moi, je regarde les élections. Là. S'il y avait des élections demain matin dans son comté, Geneviève Guilbeault perd à Québec présentement. Là. Es-tu en train de magasiner des opportunités ailleurs?
C'est extrêmement difficile. C'est une femme qui est quand même la vice-première ministre du Québec. Elle est femme de confiance du gouvernement Legault, qui a encore 2 ans avant les prochaines élections. Est-ce que je ne suis pas dans sa tête? Effectivement, elle avait très clairement fermé la porte. Idéologiquement, tu as raison. Puis c'est bien que tu le soulignes. On oublie parfois le mot coalition. Hein, dans la CAQ, c'est une vraie coalition. Et contrairement au Parti québécois, qui a l'article 1, c'est-à-dire la Parti québécois, oui, c'est une forme de coalition, mais tout le monde a en commun la souveraineté du Québec. Tu sais, c'est comme la ligne directrice. Du côté de la CAQ, c'est un gouvernement qui peut effectivement contenir des gens tenant plus fédéralistes, plus nationalistes. On le sait, certains s'affichent davantage. Donc, est-ce que idéologiquement, on pourrait... Écoute, de là, je comprends que pour Étienne Grandmont, aujourd'hui, Québec solidaire, c'est facile... C'est-à-dire, c'est facile. C'est une image forte de dire, coudonc, dans le dossier du tramway, ce dont on vient de parler, Annick, elle traîne tellement qu'es-tu en train d'essayer de favoriser le parti conservateur parce qu'elle est proche de Poilievre. Bon, on peut lancer cette hypothèse. Moi, j'ai pas d'indice en ce sens.
Ben, c'est Québec, c'est Québec solidaire qui ramène ça. C'est pas nous autres. Nous autres, on avait parlé en septembre parce qu'on avait entendu cette rumeur-là. Le Québec solidaire revient avec ça. C'est-tu ça? Ouais. C'est-tu pas ça? Je sais pas. Mais ben, on en jasait tantôt avec... On en jasait avec tantôt avec Pascal. Moi, Geneviève Guilbeault, pour moi, c'est une excellente communicatrice, puis elle pourrait tant fitter pour la Coalition Avenir Québec qu'elle fitterait pour le Parti conservateur, à mes oreilles, à moi. Mais à savoir si ça va se faire un jour, je sais pas.
On ne sait pas. Je sais, sur le plan plus fédéraliste, il y a des caquistes qui sont plus souverainistes ou en tout cas nationalistes. Je pense que sur le plan peut-être plus constitutionnel, ça pourrait... quelqu'un qui aime l'économie, qui aime, on le sait pas. Ça, moi, je pense que c'est pas contre nature, mais il n'y a pas d'indice de rencontre. Je ne sais pas les détails de la manière dont QS a voulu sortir publiquement là-dessus, mais peut-être que c'était aussi une forme d'amalgame qu'on fait un peu pour le coup d'éclat. Là,
j'aurais aimé ça que ça soit sur un enjeu, une proposition, une solution. Ouais. Je commence à déplorer les politiciens qui me font perdre mon temps. Puis pourtant, c'est ma job, donc ça devrait être quelque chose que je suis contente qui alimente, mais ils me font perdre mon temps.
Ça a été très bien servi ces derniers mois dans ce rayon-là, Pascal, parce que si on regarde le temps qu'a pris Justin Trudeau à démissionner, on regarde le temps que prend M. Legault à déclencher la partielle dans Terrebonne, il y en a pas mal qui jouent l'horloge.
Ça me démontre leur pertinence en ce moment-là. Je suis rendu cynique, c'est pas drôle.
Pour les cyniques, c'est un beau temps.
Valérie Godreau, on te lit dans le soleil, puis nous autres, ben, on se reparle la semaine prochaine.
Sans faute, toujours un plaisir.
Salut, un gros merci. Salut. Valérie Godreau, qui est chroniqueuse au soleil, à qui on a le plaisir de jaser à chaque semaine. Nous autres, on va s'arrêter. Louis Gauthier, chroniqueur international, s'en vient dans les prochaines minutes. Il va nous parler du Canada, qui a de plus en plus de choses à perdre là, en faisant des représailles contre les États-Unis. Bien hâte de jaser de ça avec lui. 1h02, courte pause, on vient. Je parle du Tonic Gym. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur gym à Québec. C'est le plus gros gym à Québec. Il y a des appareils là, des appareils qui sont neufs, qui sont juste incroyables à la fine pointe de la technologie. Tu as une immense section cardio aussi qui est disponible. Tu as plusieurs sections d'appareils musculaires, des zones exclusives pour le bas du corps, boutique, bar et santé, en plus d'avoir accès aux meilleurs suppléments sur le marché. Tu as du coaching privé aussi, puis ça, ben, il y en a des coachs qui sont extrêmement professionnels au Tonic Gym. Donc, va faire un tour. Tu veux en savoir plus? C'est dans le stationnement et l'endroit où tu allais célébrer dans le temps, ça s'appelait le Palladium. Ben, tu es dans les anciens locaux du Palladium au Tonic Gym. Fait que ça va te rappeler plein de souvenirs. Puis en plus, il y a un DJ le vendredi soir, pourquoi pas. Donc, allez rencontrer les employés là qui sont prêts à vous accueillir. Sinon, si tu veux en savoir plus sur le web, ben, c'est tonicgym.ca.
T'as manqué le...
tout le temps une phrase de trop, un mot de trop, un...
13h09, minutes. Vous êtes sur
tu
les
te
ondes.
Diminues toi-même, Yannick Marceau. Oui, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101 avec voilà. Yannick Marceau, le champion pour se diminuer, se caler et ne pas se faire rayonner. 418-971-1021 et le 911 si vous êtes dans ma position.
S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer.
Hey, avant de passer à Louis,
oui.
J'avais le goût de te dire juste une petite information parce que j'ai dit 911 puis mon cerveau est allé dans un courriel que j'ai reçu ce matin du service de police de la Ville de Québec. Moi, je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait une ligne pour donner de l'information, mettons, sur des cas en cours et autres. Mais si jamais tu as quelque chose qui est non urgent, mais qui est à signaler à la police, il y a un numéro.
Oui, je parlais avec Sandra Dion, d'ailleurs, de la police de Québec hier matin à ce sujet-là, parce que ça manquait d'éclaircissement là, avec le communiqué qu'ils nous ont envoyé.
Ouais.
De ce qu'on comprend, c'est que les policiers, pour des petits larcins,
oui.
Exemple, tu t'es fait voler ton vélo,
oui.
Si tu as eu, je sais pas moi, un hit and run, d'après moi, les policiers vont se déplacer, mais si tu as quelque chose de pas urgent, puis tu as besoin d'un numéro de dossier pour donner à tes assurances, ben tu vas appeler à ce numéro-là. Moi, ça me... Tu sais, on paye assez de taxes et d'impôts. Je suis tannant avec ça, je le sais, mais on donne énormément d'argent au gouvernement que si je me fais voler chez nous, je m'attends à ce qu'un flic vienne chez nous pour voir l'étendue des dégâts, qu'il fasse un rapport, qu'il essaye de trouver des empreintes digitales. Bon, je sais, je suis un peu fou.
Mais
qu'il essaye
de
retrouver le voleur qui m'a volé. Je m'attends à ça. Là, on a fait un deuxième numéro de téléphone pour aider les gens du 911 à gérer leurs priorités.
Ouais.
Et ça, c'est tout à fait normal. Mais ce que Sandra Dion, je l'appelle Sandra, mais je ne la connais
Sandra.
Pas personnellement, ce que Sandra Dion me
Sandra?
Dit hier, c'est que si tu appelles là...
Ouais.
Bon, peut-être que les policiers vont se déplacer à un moment donné, mais c'est surtout si tu as besoin de quelque chose à donner
le
à tes
constat.
Assurances. Voilà.
Mais ça, je comprends. Je comprends ta position aussi. Ce que j'aurais aimé de ce 418-691-6911, la finale. Là.
691, oui.
Ouais. Si j'avais mon petit commentaire à dire par la... Moi, je suis quand même... Bon, j'appelle de façon quérulente presque au 911, là, dans le sens où j'appelle pas chaque jour de ma vie, mais il est arrivé tout le temps des affaires rocambolesques dans ma vie, fait que ça m'est arrivé à plusieurs moments de faire « Eh merde, je pense qu'il faut que j'appelle la police, mais je trouve ça gênant et déplorable d'avoir appelé à l'urgence. » Tu comprends? Ma... Si j'avais pu avoir le 418-691-6911, qui faisait en sorte que quand je circulais sur la route, à un moment donné, en allant travailler le matin, puis qu'il y avait un individu bizarre qui circulait là en disant qu'il n'y avait plus de batterie sur son sel, mais pourtant la lumière de son sel fonctionnait, puis qui a approché ma voiture, qui était louche, que moi, j'ai pu quitter, mais je ne sais pas s'il croise quelqu'un d'autre, j'aurais eu ce numéro-là, j'aurais été contente.
Oui, mais je pense que ça, s'il y a un rôdeur, ça, c'est le 911. Mais si tu te fais voler, c'est le numéro où ça ne demande pas ouais. un policier d'urgence.
De venir automatiquement. Mais tu sais, si tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange, une situation, mais tu n'es pas sûr que c'est une urgence, j'aurais, en tout cas, je trouvais ça intéressant.
Si je peux pas dire ça à Sandra Dion, mais si j'avais le policier, le chef de police de la Ville de Québec devant moi, puis il me disait ça, ouais, mais vous savez, des fois, il y a des gens qui nous appellent pour des situations moins urgentes, comme un vol dans une maison ou un vol dans un véhicule.
Moi, disais, c'est urgent, la maison.
Les policiers ne peuvent pas se déplacer. Je dirais, ça, c'est pas mon problème. Moi, je te paye pour que tu m'envoies un flic dans ma maison pour constater les dégâts.
Mais il y a peut-être
essayer
pas
de faire
l'effectif.
Une enquête. Mais ça, c'est pas mon problème. C'est à lui de se battre auprès des policiers pour obtenir plus d'argent. Parce que nous autres, on envoie beaucoup d'argent.
Puis entre-temps, ça peut-tu être la solution? En passant, le Louis est là, mais 418-971-102, ça, c'est notre texto. Ça aussi, ça peut être pour une situation d'une urgence, si vous voulez. Moi, j'aimerais ça savoir si vous avez déjà appelé à la police. Si oui, pourquoi? Je vais vous lire dans les prochaines minutes. Ça m'intéresse. Ah. Pourquoi tu ris de mes intérêts?
Parce que je vois que tu as beaucoup de temps libre. Là. On allait parler
pas,
avec un de tes préférés.
Je ris pas de ton toupette quotidiennement, puis je pourrais. Laisse-moi parler avec les auditeurs.
Je reviens en mode à tous les 20 ans. Louis Gauthier, chroniqueur international, salut.
Hey, bonjour Québec.
Hey, salut Louis.
Louis, je veux profiter.
Là, t'as pas besoin d'avoir peur. Là, si tu manques d'argent, là, le prof du clos a 55 milliards pour toi. Là.
Voilà, voilà. Hey Louis, je veux profiter du fait que t'es très près du milieu du camionnage. Moi aussi, j'aime bien les camionneurs puisque je leur parle à chaque lundi avec la belle gang de Truck Stop Québec. Pourquoi je vois une multitude de vidéos où je vois des camions munis d'une remorque sur l'autoroute sens inverse? Pourquoi je vois ces gens-là? Puis, tu sais, ça arrive-tu souvent dans le métier de camionneur de voir des débiles qui sont pas capables de savoir dans quel sens ils sont puis qui risquent la vie des citoyens autour?
C'est particulier parce que c'est arrivé à deux ou trois reprises depuis un mois, depuis le retour des fêtes. Puis c'est arrivé ici sur la 20 la semaine dernière, de l'autre côté. Là, je suis sur la 40 présentement, mais de l'autre côté, dans le coin de Saint-Hyacinthe, c'est arrivé. Et sur la 401, il y a à peu près deux, trois semaines, c'est arrivé. ça commence à être dangereux, solide. Les gens, écoute, on se demande comment ils font pour faire, pour accéder dans le sens inverse à l'autoroute avec une vanne de 53 pieds. J'essaie de me pencher sur la mathématique géographique de la 401, ben de l'autoroute 20. Je n'arrive pas à comprendre qu'un 53 pieds s'en va en sens inverse. Mais je pense que c'est dans les zones de travaux que ça arrive plus particulièrement, quand tu as des changements de voie. Il y en a qui vont continuer.
Mais Louis, tu connais-tu la joke du Newfie qui avait été faite sur le camionnage?
À un moment donné, c'est un Newfie
qui est dans son truck, puis d'un coup, il entend l'animateur à la radio qui dit « Là, faites attention, il y a un gars à 20 qui circule sans ce contraire. » Puis là, le Newfie, il dit « Hit tabarouette, vire à gauche, vire à droite. » Il dit « Il y en a plus qu'un! » Mais je comprends pas. Quand les véhicules arrivent face à face à toi, puis te passent d'un bord et de l'autre, tu devrais avoir une connexion dans ton cerveau qui dit « Ça se peut que ce soit moi qui soit sens inverse. »
Mais écoute, la beauté de l'histoire, c'est que les autorités routières, là, que ce soit l'OPP, que ce soit le MTO ou Transport Québec, ça intervient très rapidement. À un point tel qu'on bloque les accès. C'est comme si un avion atterrit sur une autoroute, là. Mais dans ce cas-ci, on intervient très rapidement. Parce qu'il y a des véhicules d'intervention d'urgence qui sont à peu près stationnés partout sur des tronçons d'autoroute, que ce soit ici au Québec ou en Ontario. Donc, ils peuvent intervenir rapidement. Mais malheureusement, ce que vous voyez, ce n'est seulement qu'un segment parce qu'il n'y a pas le temps de faire 20 km ou faire Montréal-Toronto de même. Là.
Parfait. OK. Je vais te poser une question. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Là, fait que ça va être flou, mais tout le monde va comprendre. C'est-tu des Canadiens et des Américains qui conduisent sens inverse sur l'autoroute?
Non.
OK. Bon. Passons au sujet principal.
Non, mais écoute, j'en fais un débat, Yannick. 2025, c'est ma résolution 2025. Je n'ai parlé, c'est pas la première fois. La loi sur le transport est de la juridiction fédérale. L'émission des permis de conduire est de la juridiction provinciale. Il va falloir arriver au jour, cette année, dans un avenir très rapproché, à ce que la juridiction des permis commerciaux, c'est-à-dire ceux qui chauffent des camions, ça soit sous juridiction fédérale, que ça corresponde à un minimum de critères afin de l'obtention du permis. C'est la même chose pour les pilotes d'avion, c'est la même chose pour les aiguilleurs de train, c'est la même chose. Le camionnage, c'est rattaché à une juridiction provinciale, puis c'est pour ça qu'on a le problème présentement. Les gens ne sont pas assez bien formés.
Louis, ils ont leurs propres écoles de camionnage. En 48 heures, peuvent obtenir un permis qui va leur permettre d'embarquer dans un camion avec une remorque de plusieurs pieds en arrière, puis prendre le chemin. C'est des dangers publics.
Ça nous a pris plus d'études pour avoir le micro. Je comprends qu'on a quand même un rôle important, là, mais je veux dire, on n'est pas sur la route.
Demander à un jeune ou une jeune graduée du CFTC ou du CFTR, après 4 mois de formation, s'il est à l'aise du jour au lendemain de s'en aller tout seul dans le trafic. OK? Ça prend une adaptation parce que, oui, tu es dans un environnement contrôlé lorsque tu suis ton cours. Puis le CFTC, les gars font, les profs font la job d'aller dans le trafic de jour, de soir, de nuit, des heures atypiques de conduite pour adapter les gens. Mais une fois que tu te trouves tout seul, tu as encore une période facilement jusqu'à 6 mois à t'adapter. Tu sais, c'est comme un bicycle quand tu commences à pédaler un bicycle. T'en as des gars, Yannick, tes amis, c'est 4 roues, puis à la minute que t'es enlevé ces 2 roues, ils ont tombé une couple de fois, là. Tu comprends, ça arrive. Fait que ça prend de l'ajustement. Faut qu'il y ait une confiance qui se crée à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, viens pas me faire croire que ça arrive en 48 heures. C'est mon thème.
Bon, on sait que t'aimes le country, Louis, c'est bien correct. Est-ce que le camionneur qui a tué une jeune femme à Vallée-Jonction, c'était-tu un natif du Canada? C'était-tu un natif des États-Unis?
C'est un natif d'outre-mer.
Parfait. Tu sais, à un moment donné, il va falloir se poser la question, là, ces écoles-là qui leur appartiennent, qui appartiennent à leur communauté, est-ce qu'ils font des passes droites? Puis s'ils font des passes droites, puis ils laissent sortir des camionneurs de leur école qui ne savent pas conduire, puis qui sont des dangers pour la sécurité publique, bien, fermer ces écoles-là, tout simplement. Ça n'a pas de bon sens de voir ça, Louis.
Bien, c'est seulement en raison du permis de conduire. Si l'individu arrive d'ailleurs avec un permis de conduire qui est classe 1, classe A, peu importe, bien, il se le fait ajuster tout de suite, il s'en va à sac, puis il a un permis de conduire avec ses acquis sur le permis, puis il a 6 mois pour aller chercher la reconnaissance des acquis. Bien, en 6 mois, il s'en cause des dommages, puis c'est pas la première fois que j'en parle. Fait que ça, c'est sûr qu'il va falloir que ça se règle. Vous allez en entendre parler beaucoup, beaucoup en 2025, parce que ça va avoir un ça a déjà un impact direct sur le renouvellement de vos assurances automobiles. Et l'ensemble du portefeuille d'assurance que vous avez.
Tu sais, puis je les comprends là, de vouloir travailler très rapidement puis de ne pas vouloir dépendre du gouvernement. C'est tout à leur honneur de vouloir travailler, mais ce métier-là, vous conduisez un engin de destruction massive, là. Puis il faut que ces gens-là le comprennent. Ils ne peuvent pas embarquer là-dedans sans avoir passé par des écoles reconnues comme le CFTC de Charlebourg. Ou si jamais, à la fin de ton parcours, tu n'es pas capable de conduire, ben tu ne l'auras pas, ton permis. Ça va s'arrêter là.
Ça a pris plus de temps, d'argent et d'examen avant un permis de moto, là, pour des gens qui sont... J'essaie de faire des comparatifs depuis le début, là, dans ce que vous dites. C'est inquiétant.
Bien, c'est inquiétant, mais... Vous devez comprendre que là, ce sont les compagnies d'assurance qui embarquent dans le jeu depuis plusieurs années. Je viens de donner 2 formations avec un de mes collègues de la compagnie d'assurance Northbridge dans une compagnie de transport, justement sur la conduite préventive et les impacts que vous avez sur les SMS, sur le clearinghouse, le DOT, tout l'aspect des permis de conduire et des dossiers de conduite, autant des compagnies de transport que des chauffeurs.
Oui, puis tu sais, Louis, il y a beaucoup de textos qui rentrent, entre autres des gens qui disent ça devrait être interdit de conduire un camion si tu n'as pas connu 1 ou 2 hivers dans une voiture standard. Ici, malheureusement, je pense que c'est essentiel. Et la personne dit, je pense aux étrangers, mais en tout respect pour eux aussi là-dedans. Là.
Oui, puis regardez, une politique d'une compagnie d'assurance ne permettra pas à un chauffeur d'aller aux États-Unis dans une compagnie de transport s'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans et au moins 3 ans, mais c'était 2 ans, c'est rendu 3 ans d'expérience sur la route. Donc, il y a des mesures qui se prennent. On ne voit pas encore les résultats parce que malheureusement, il y a une pénurie de personnel, puis il y a des compagnies qui décident d'aller de couper les coins ronds, puis d'embaucher des chauffeurs, de former des compagnies. En Ontario, le problème est en Ontario. Là, on ne se le cachera pas, c'est pas au Québec, c'est en Ontario. Ils vont chercher un permis ontarien, puis ils viennent travailler au Québec, puis ils ont 6 mois pour faire les dommages.
Eh bien, tu fais beaucoup la transition entre le Canada et les États-Unis. Tu as la chance de rencontrer des Canadiens, des Américains. Ce qui se passe avec Donald Trump, son fameux 25 % là, de tarifs, qui devrait rentrer en vigueur si on en croit ce que les gens autour de lui mentionnent, ce samedi. Est-ce que ça laisse craindre le pire pour la suite? Puis est-ce que le Canada peut sortir gagnant en bout de ligne?
Non, le Canada ne peut pas sortir gagnant en imposant des représailles de toutes sortes envers un pays qui est 10 fois plus gros que le sien au niveau de la population. C'est la mathématique, elle est là. L'équation, elle est inévitable. Donc, tu dois en tenir compte. D'entendre un ancien professeur titulaire d'une chaire de recherche à l'Université Laval, Jean-Yves Duclos, aller dire, nous autres, on a une enveloppe de 55 milliards de prêts pour aider au Canada. Moi, je me pose une question. Le problème à la base de ces tarifs-là, c'est la sécurité à la frontière, c'est le fentanyl en Colombie-Britannique, j'en ai parlé, c'est notre frontière nord, c'est nos obligations internationales avec le 2 % de notre PIB dans le budget de la défense de l'OTAN, c'est pas fait. Puis Donald Trump veut rouvrir l'entente de libre-échange que tu as entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, comme j'en parlais avec les filles la semaine passée. Ils veulent l'ouvrir une année avant, puis le problème qu'on a présentement, c'est qu'on pense juste à donner de l'argent pour aller contrecarrer les représailles. Si tu vas voir les sondages de Polymarket, qui est très, très suivi, lundi matin, il y avait 4 % des chances qu'il impose ses tarifs. Puis là, c'est rendu à 36 % depuis hier, puis ça gèle depuis ce temps-là, parce que plus on va approcher de la date, ça va jouer à peu près dans le 50 % à fin. C'est pas 25 %, ça peut être 2 %, ça peut être 3 %, ça peut être une menace, mais c'est plus un canard jeté à la mer, comme on pourrait dire, dans une mer d'incertitude qui garoche partout pour tendre des perches, pour regarder comment on va réagir. Puis là, bien, Mélanie Joly, elle devrait se rendre à Washington pour demain, justement pour aller régler cette question-là, 48 heures avant la date fatidique du 1er février, qui est samedi. En passant, samedi, imposer des tarifs un samedi, bien, ça, la politique pourrait être nommée. Mais comme je le disais la semaine dernière, je donnais l'exemple de Nestlé, qui fait le lait Fairlife, qui est une compagnie américaine qui doit travailler avec la gestion de l'offre. Elle achète son lait au Wisconsin, au Québec, en Ontario. Elle va payer 3 fois cette fameuse... ce fameux pourcentage tarifaire-là qui serait de 25 %. Puis moi, ça me trouve, je trouve ça tout le temps bizarre qu'on ait des mesures à prendre contre les États-Unis concernant des barrières tarifaires, alors qu'on n'est même pas capable de régler nos propres barrières tarifaires au Canada, parce qu'on a des barrières tarifaires au Canada. Essayer d'aller acheter du vin en Ontario pour le vendre au Québec, ça ne fonctionne pas. C'est juste un exemple. Il y a des barrières tarifaires entre les provinces. Ça fait des années que ça dure. Les gens se battent pour ça. Puis les gens doivent... il y a des voyages qui s'organisent pour aller chercher du vin à Ottawa, du vin à Kingston en Ontario pour le boire parce qu'il est moins cher. On a des barrières tarifaires au Canada. Donc, on n'y croit pas aux barrières tarifaires. On préfère que les provinces au Canada vivent chacun dans leur cours puis s'arrangent avec leurs propres problèmes. On est en train de faire la même chose. Si on s'impose une barrière tarifaire, on va... Écoute, c'est sûr qu'il va perdre. Donald Trump, il se fait casser les oreilles par des producteurs qu'il ne faut pas faire ça parce que l'entente de libre-échange a permis à des compagnies de s'acheter entre eux autres. Je prends l'exemple de Cascade. Cascade, qui est un fleuron québécois, a des usines partout, dont à Wagram, en Caroline du Nord. Alors, pensez-vous le nombre de voyages qui se fait là par jour entre le Canada et les États-Unis? Comment votre papier de toilette, vos essuie-tout, puis tout ce que vous voulez, puis le papier que vous mettez dans l'imprimante de l'ordinateur, comment ça va coûter autant au Canada qu'aux États-Unis?
Ils vont devoir l'adapter, puis bien que Donald Trump ait dit le contraire, c'est pas la première fois qu'il se trompe un peu ou qu'il ment carrément, en sachant très bien qu'il ment, mentionne que les États-Unis sont indépendants au niveau du pétrole. Bien, malheureusement, les États-Unis ont encore besoin du pétrole canadien. Puis Daniel Smith est parti le rencontrer pendant deux jours. J'imagine qu'il va peut-être y avoir des tarifs qui vont rentrer en vigueur pour ce samedi, mais avec la grosse job de Daniel Smith, d'après moi, le pétrole devrait être exempté de ça.
Bien, il n'y a pas juste le pétrole. Puis pensez-vous que Donald Trump est vraiment sérieux puis a l'air vraiment malin? Il est nerveux de voir que les Chinois ont une main prise sur le canal de Panama. Il veut intervenir à un point tel qu'il veut changer le nom du golfe du Mexique pour le golfe de l'Amérique. Puis il a convaincu le boss de Google de faire ça. Quand tu es aux États-Unis, ça s'appelle le golfe de l'Amérique. Quand tu es ailleurs en Amérique du Sud, ça s'appelle le golfe du Mexique. C'est rendu une vraie farce. Il a peur, il essaie de redorer l'empreinte américaine sur la gouvernance internationale par tous les moyens. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il donne des coups d'épée partout, puis ça fait réagir. Mais le problème au Canada, on réagit tout le temps avec « on va injecter de l'argent ». C'est pas la façon.
Sans la gérer, sans savoir où la mettre, sans... Ouais.
Mais écoute, Pascal, s'il y a 50 milliards de dollars à mettre, le fédéral... Maudite merde, excusez le terme. Pourquoi qu'il ne met pas dans la défense nationale? Pourquoi qu'il... Ça prend 30 milliards si on veut remettre à jour notre 2 % de PIB dans la défense de l'OTAN. Ça prend 10 milliards pour remettre dans l'armée. Il nous reste encore 10 milliards à faire pour je ne sais pas quoi, engager du monde dans GRC, engager du monde dans les services frontaliers. Il y a de l'argent à mettre? Ben non. On va la donner à monsieur puis madame parce que, hey, on a peur, on revient dans des... Tu sais, on... Comment je pourrais te dire? On est en train de cultiver un domaine qui a énormément servi pendant la COVID, c'est-à-dire le syndrome de la peur. On est en train de servir de ça. C'est ce qu'on voit cette semaine. Quand j'entends Radio-Canada faire un décompte, on était 4 jours du 1er février, on était 3 jours de l'augmentation des tarifs. C'est malheureusement cultiver le syndrome de la peur. Les gens, revenez les deux pieds sur terre, regardez l'ensemble de l'œuvre. Le 50 milliards de dollars qu'il veut vous donner, il devrait le mettre ailleurs, puis ça calmerait le jeu. C'est ça qui devrait être dit quand Mélanie Joly va débarquer dans le bureau de la Maison-Blanche puis dire à l'oncle Donald, « Calme tes nerfs, on va investir 50 milliards de dollars dans ce que tu as besoin. » Puis pour lui donner raison, ou si tu veux qu'on le mette, mon oncle Donald, le 50 milliards, tu dis juste ça, ça va y calmer les yeux, puis il va il va blanchir un peu ses cheveux, c'est tout.
Une chose est sûre, c'est que depuis l'élection, il a fait bouger le Canada comme pas possible au niveau de la sécurité. Hey. Là.
Hey, ça, c'est quelque chose. Ça, là, je pense que la sécurité au Canada n'aura jamais... On dirait qu'elle a ressuscité depuis 10 ans.
Oui. Louis Gauthier, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine, mon ami. Puis d'ici là, ben, s'il y a quoi que ce soit avec les fameux camionneurs Inc., là, ben, tu me reviens avec ça.
Sans problème. Bonne journée à tout le monde. On se reparle de la Saskatchewan la semaine prochaine.
Allez, mon ami. Il se promène beaucoup.
Tu m'as pris ma femme. Ça doit être le fun, des fois, par exemple.
Voyager à travers le monde.
Dans ta bulle, ta musique, ta radio.
Ouais. C'est que t'es pas mal tout le temps dans tes valises. Puis,
ça peut être tendant.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'écoute. Moi, je suis une fille sur Facebook. Puis, parce que je l'ai vu passer sur TikTok. Puis finalement, ben, je l'ai vu passer sur Facebook. Fait que c'était un peu plus facile pour moi sur cette plateforme-là. Puis, elle s'appelle Valérie Vitali, quelque chose du genre.
Ça doit être un pied de céleri.
C'est une belle fille, mais c'est surtout une femme extrêmement brillante.
Oh, oh bravo, Yannick, t'évolues.
Elle fait du van life.
OK.
Puis elle racontait que la vie de van life, là, c'est très en vogue ces temps-ci.
C'est prisé, ouais.
Mais de ne pas avoir accès à une douche, de ne pas avoir accès constamment à de l'eau potable,
c'est toujours compliqué.
Laver ton linge, ouais. Ça peut te taper sur les nerfs.
Moi, je pense que j'aimerais ça, mettons, le faire pour une portion de voyage. À un moment donné, faire un voyage là-dedans.
Quand mais tu sais qu'il y a une finalité à tout ça.
Oui, ouais. Mais de... Puis je suis pas princesse, là. On s'entend, j'ai vraiment deux côtés, là. Il y en a un que j'adore. C'est vrai, t'as bien beau dire souvent ce que tu veux. Je joue souvent avec toi, là, mais... T'sais, j'en ai fait. Il y a un ancien collègue avec qui je travaille à la radio qui disait tout le temps que je faisais des voyages de misère là, parce que le pack-sac, j'adore ça et tout ça. Sauf qu'il y a un minimum. Avec tout ce qui est se laver, là, c'est tough. Là. Eux, dormir dans leur petit cubicule à un moment donné, d'être dans la valise, puis là, tu cherches quelque chose, t'as pas un cintre pour le mettre. C'est...
Ah, il y a ça.
Faut que tu sois un peu bohème, pareil.
C'est-tu en fin de semaine passée que j'ai vu sensiblement un bon reportage? Parce que j'aimerais ça m'acheter une petite van dans laquelle je pourrais la convertir, puis partir avec la petite famille, puis ouais. En se disant, regarde, on va passer 3-4 jours. T'sais, je veux pas un gros campeur, j'aimerais ça quelque chose de petit pour qu'on puisse le plus possible vouloir faire de l'extérieur,
ouais.
Même s'il pleut.
Ouais.
Puis c'était un reportage, c'était deux filles, c'était un couple. Puis ils disaient qu'effectivement, la difficulté, parce qu'eux autres sont au Québec, van life en hiver, c'est pas facile. Puis là, tout gèle, sont deux, ils n'ont pas accès à des douches. Là, t'es un couple. Là. Je sais pas toi comment ça se passait dans tes couples, mais moi, dans mes couples, aux deux jours, trois jours,
trois jours.
Ben, ça, c'est ça.
Quoi?
Fait que.
Quoi? Je comprends pas.
Ça doit être une difficulté.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que ça se lave.
T'as le temps? Aux deux jours? Aux trois jours? Tu connaissais pas la serviette humide au minimum?
Ouais, mais non, ça c'est pas suffisant. Moi, quand il y a de l'odeur, c'est sûr et certain que je. Non.
C'est ça, je te dis.
Faut pas frais!
Faut se laver, là, tu sais. N'en déplaise à feu Doc Mayou, là.
Fait que seul, je suis d'accord. Mm. Seul, je partirais en van life, là, pendant un mois, mettons, à la Californie.
Ouais, mais faut que tu te laves quand même.
Que quand tu... Ouais, mais c'est moins épais, tu sais.
Mais non.
Petite odeur de. Tu pues, mais t'es dans ton jus. Mais si t'es avec quelqu'un. Si t'es avec quelqu'un, c'est un peu plus gênant.
Ah non, c'est comme les dents. Les dents.
Pascal, j'ai fait la route 66 à moto. J'arrêtais pour me laver aux 2-3 jours.
Oh, Yannick, fais un
J'étais effort. Sale, je sentais l'humidité, mais encore à ce jour, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie.
C'est une des plus belles routes que j'ai faites. J'étais pas en moto, je te jalouse là-dessus. J'avais un convertible, mais c'est quelque chose à faire. Puis le conduire, c'est beaucoup mieux quand t'es passager en convertible de mal au cœur. Mais il y a une compagnie, je pense que c'est québécois. Il était passé au Dragon de mémoire, puis c'est de Québec, puis eux maintenant, ils vendent beaucoup. Là. Ça s'appelle Road Loft. Puis ils vendent tout ce qu'il faut pour convertir ton camion. Tu sais, comme mettons de la construction, une fille, un camion, peu importe, je vais pas faire de stéréotypes, là. Ils vendent tout ce qu'il faut pour le convertir. Même ta vanne. Si ta vanne te sert au quotidien avec tes enfants, ta famille, ils vendent ce qu'il faut pour que ça soit logeable avec un matelas, mais que tu puisses l'enlever. Ça doit être le fun d'avoir ça.
Ben oui,
matériel pour.
Il y a quelque chose à faire pour s'amuser. Ouais. All right, 13h32, on s'en va en musique. Jelly Roll, Need a Favor.
Je pense que je vais t'offrir des lingettes humides.
Sur boulevard. Comment ça? Ça sent un peu?
Non, mais tu peux te laver minimum, là.
C'est ce qu'ils disent. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit, les amis. Pascal est encore traumatisé.
Ben là, lavez-vous. Le constat, c'est que lavez-vous.
Ouais, 13h35. C'est moins 13 degrés sur Québec. Comment ça se passe sur la route, les amis? 418-971-1021. 418-971-1021. À la météo aujourd'hui, c'est ça. Peut-être un peu de neige au travers de tout ça, entre 2 et 4 cm annoncés. Pas de probabilité d'averse ce soir, si ce n'est que vers les entours de minuit, minimum de moins 22. Avec le refroidissement éolien, cette nuit, ça va ressembler à un moins 31 comme température ressentie. Ce sera pas chaud pour la pompe à l'eau, les amis. Jeudi, demain, jour de paye, plein soleil, maximum de moins 14, et vendredi, de la neige, maximum de moins 9.
Pourquoi tu me pointes?
Ben parce que tu riais.
Parce que les auditeurs me font rire.
Ils ont dit quoi?
Si ta libido ne tient qu'à une odeur corporelle...
Ah, ben
change
ça,
d'homme.
Moi, ça me va, là.
Moi, j'ai dit, c'est-tu quoi, on peut s'obstiner longtemps là-dessus?
Exact.
J'ai aucun problème.
Clan de la Savate, Mandy Monaco, sur Boulevard. Mandy.
T'avais dit que c'était pas pire, hein? Détails sur place. Reflexteinte.com.
On vous parle du 7e ciel assez souvent, puis c'est un endroit que j'aime bien, et j'aime bien Mélissa Tessier des boutiques au 7e ciel qui vient nous voir une fois de temps en temps. Pourquoi on vous parle du 7e ciel aujourd'hui? Ben, vous le savez, depuis le début du mois de janvier qui tire à sa fin, ben, c'est le mois de la liquidation aux boutiques au 7e ciel. Il y a des deals comme pas possible. En fait, le fameux mur de liquidation est toujours en place. On a rajouté du stock en plus, donc des trucs qui valent 50 $ qui sont laissés à 30 $. On a des culottes ou encore brésiliennes ou tanga, 4 pour 20 $. Des boxeurs pour hommes, ça les gars, ça c'est le fun, à 5 pour 20 $, donc c'est vraiment pas cher. Puis le fameux tirage, la grosse doudoubite géante à 2 $ pour une chance de gagner ou encore 3 pour 5 $. Deux adresses pour notre 7e ciel, c'est le 911 Charest-Ouest ou encore Marché Jean Talon ou encore, tiens, sur le web, 7e ciel.com, au 7e ciel.com.
Vous cherchez à...
Émission qui tire à sa fin, les amis. 13h47, Denis Gravel qui est déjà pressé de rentrer. Ils ont eu heureux de travailler, Denis Gravel. Qu'est-ce qui se passe?
Chante déclaration d'amour, inconsciente envers nous.
Pourquoi?
Il est tout le temps en studio aujourd'hui, il vient nous voir, être bonne humeur. Où il se passe de quoi dans sa vie personnelle? Mm-hmm. D'après moi, après s'être libéré hier, il est heureux.
Tu penses? Ah, ça se peut. Il était-tu plus léger?
Moi, j'en dis pas plus.
Non, c'est ça. Moi, c'est le fait qu'il avait son fameux spermogramme hier. Tout le monde le savait. En fait, tous les auditeurs de Boulevard le savaient. Tous les animateurs, tout le staff ici de la station, de l'administration. Puis il est arrivé de l'hôpital, puis il avait des culottes de jogging.
Ouais, c'est pas le meilleur set, là. C'est pas. C'est ça, là. Enfin, moi qui se disais, ben, ça pourra pas redevenir aussi. En tout cas, c'est vraiment pas de quoi que j'aimerais discuter. Puis honnêtement.
Tout était parfait.
Hier, je l'entendais que ça a candeur. Tu sais, moi, je suis comme, hey, ça va être correct, le personnage. Là, j'étais gênée. Elle me dit, ouh, c'est vous, le gars de la radio, qui en parle.
Elle l'a reconnu!
Ça fait un mois qu'il en parle en onde à chaque jour de sa vie. Ah, il était gêné tout c'est à ça. Coup. Voyons, Denis, reviens-nous.
Y a-tu dit que s'il avait rempli la Chopin au complet?
Tu veux savoir ça, toi?
Ben non,
t'es aussi louche que lui.
Tant qu'à être là, t'en rajoutes.
Du monde vraiment bizarre, là.
Non, c'est ça. Hey, je vous souhaite de passer une super belle fin de journée sur les ondes de Boulevard. C'est pas terminé parce qu'à 14h, ben, c'est Denis qui arrive avec l'émission du retour. Véro sera là, Audrey sera là, puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h en compagnie de Steve Waterhouse.
Chanceux!
Chanceux, ben oui, on va parler de plein de trucs touchant l'informatique, la
entre
cyber...
Entre autres, des psychs.
Cyber, oui, DeepSeek, l'intelligence artificielle. Fait que ça va être franchement intéressant. Je vous invite à ne pas le manquer. Et sinon, ben, demain, 10h, je serai en compagnie d'Audrey Pinchot dans l'Open Mic. Puis après ça, ben, Pascal va se joindre à nous vers les entours de 11h30. Salut, Pascal!
Salut!
Bye-bye!
Bye!